Gameblogueuse, gameblogueur, bien le bonjour ou bien le bonsoir en fonction de l'heure où vous écoutez ce nouveau podcast de la rédaction de gameblog.fr. C'est le podcast 165 déjà, c'est le dernier podcast d'actualité de l'année 2010 et pour l'occasion, eh bien, nous allons tirer ensemble et avec nos invités exceptionnels le bilan de cette année, une année jeux vidéo assez exceptionnelle. Et pour ça, eh bien, nous avons l'expertise invraisemblable de Thierry Falcoz, rédacteur en chef de NoLive.
Ça va, merci pour l'invite, ça va très bien. Ouais.
Écoute, la semaine dernière tu as été plébiscité avec ton amour comme ça développé et déclaré à Dragon Quest 9, on ne pouvait pas ne pas te réinviter. Et puis à tes côtés nous avons l'ancien rédacteur en chef de Game Cult et désormais qui a les rênes de senscritique.com, Ragal. Ça va bien?
Ouais, impec, merci.
Ça se passe bien, Sens Critique?
Ouais, très bien, très très bien. Non, pour l'instant, boulot, c'est, on a annoncé le 1er décembre, ouais. Là, j'en profite.
Bah bien sûr,
on a annoncé le 1er décembre, mais non, ça se passe très très bien, pour l'instant, on est très content.
D'accord. Voilà. Sens Critique, il y a de la littérature, du cinéma et du jeu vidéo.
Eh oui, attention, parce que le jeu vidéo fait partie de la culture. Mm-hmm. Sens Critique, c'est un peu un réseau social culturel, pour faire très très simple, dans lequel on peut noter et critiquer. J'en ai parlé l'an dernier,
d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
Et l'an dernier, tu devais le lancer en janvier.
Bêta. Là, voilà, on vient de lancer le 1er décembre, et oui, donc il y a des films, des livres, des séries, BD et des jeux vidéo. Et un jour, on n'a pas encore ouvert la musique, mais la musique va arriver. Voilà.
Et puis, Ragal, tu es aussi sur libération.fr avec voilà. Arwan Cario.
Chroniqueur dans le podcast de Silence on Joue, qui s'appelle Silence on Joue, qui peut se trouver sur Libération. Voilà. Donc, toutes les semaines, je suis encore dans le jeu vidéo pour en parler avec amour et passion comme vous.
Et on fait un petit coucou à Arwan, d'ailleurs, qu'on recevait dans les podcasts de Gameblog il y a quelques semaines. Allez, messieurs, avec nous aussi, Raon et Traz, ça va?
Ça va.
Ça va.
Toujours fidèle au poste. Cette fois-ci, pas de problème de micro comme la semaine dernière. On est sûr? On est bon?
On verra bien.
Parfait. Alors c'est parti, on va rebrousser chemin, on va faire la rétro de 2010. Et pour ça, en fait, on va le faire de différentes manières. On va le faire par mois, janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre. Et puis aussi avec les jeux, mais aussi les grandes sections, les grandes tendances qui ont émergé au fil de cette année 2010. On va donc commencer en janvier 2010. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, les gros jeux se concentrent un peu, et c'est un peu triste, en fin d'année, c'est vraiment un embouteillage. Et bien en 2010, ça n'a pas été totalement le cas. On a eu du Bayonetta, excellent jeu, du Darksiders, très belle surprise, du Mass Effect 2, tout ça en janvier, hein. C'était un début d'année en fanfare.
Ah clairement, non, c'était assez hallucinant. Mais ça s'explique en fait par au moins une chose, c'est que la fin 2009 était assez bouchée. Et il y a pas mal d'éditeurs, soit qui voulaient éviter en fait d'être confrontés à des gros titres de 2009,
Call of Duty
entre autres, et donc qui ont décalé leur sortie. Puis il y en avait qui avaient tout simplement pas fini leur jeu. Et donc voilà, on a eu quand même une grosse. C'est vrai que c'était cette année, pour moi, c'est une des meilleures années du jeu vidéo. Hein, c'est clair. Mais surtout, elle était très très bien dispatchée selon les mois. Donc voilà, pour les bourses des joueurs, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Mais c'est vrai que dès la rentrée, Bayonetta, que moi j'ai un peu moins aimé, mais que je reconnais sa qualité.
Darksiders.
Mais Darksiders et Mass Effect 2, pour moi, c'était voilà, déjà dès le janvier, ça envoyait du lourd, quoi.
C'est bien.
Tu partages ta vie, Thierry?
Ouais, carrément. Et on attaque directement l'année avec des titres qui prennent un petit peu des risques. Donc on a Bayonetta, il y a Bayonetta qui impose un univers qui est franchement complètement barré, mais avec un gameplay qui est bien old school, bien hardcore. Et donc c'est bien de sortir en janvier pour avoir une bonne visibilité, laisser le temps aux gens de découvrir le jeu, etc. Et au moins il n'est pas noyé parmi un milliard d'autres titres. Et pareil pour Mass Effect 2 qui a osé un petit peu réinventer la série en l'orientant un peu plus action, et au final ça marche très bien.
Alors ça marche très bien pour nous joueurs, ça a marché très bien aussi en termes de critiques, hein, dans la presse, sur NoLive, à Gameblog, et j'imagine à Libelabo
et sur Sens Critique.
Et Sens Critique, bien sûr. Néanmoins, chez les joueurs qui dépendent véritablement leur jeu, ça n'a pas été un grand succès. Et d'ailleurs c'est un petit peu symptomatique de ce début 2010, on va dire premier trimestre, où ça a été une catastrophe par contre en termes de vente, hein. Les volumes de vente ont été particulièrement bas, et on sait que des titres comme Bayonetta par exemple ont connu un succès catastrophique, ouais, quoi, en termes de volume de vente.
Il y a peut-être deux trucs là-dessus, hein. C'est déjà les gens n'ont plus beaucoup de sous,
ouais,
en ce moment
toutes les étrennes ont été claquées à la fin de l'année,
et puis malheureusement il y a quand même pas mal de joueurs, on dit souvent genre le jeu vidéo c'est que des suites, ça se renouvelle pas, etc. C'est un concept qui marche, et bing, il y a 10 jeux sur le même principe qui sortent. Dès qu'on sort un développeur prend un peu un risque, un éditeur comme Sega là en l'occurrence, au final il trouve pas son public, hein.
Je pense aussi qu'il y a aussi, moi ce que j'ai ressenti personnellement, donc c'est vraiment une analyse, attention, c'est qu'en gros maintenant, les jeux, j'ai l'impression qu'ils c'est plus comme avant, où ils sortaient, ils avaient une durée de vie de 3 semaines ou un mois. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on l'a vu, Bayonetta a peut-être fait un départ un peu pourri, mais il s'est quand même vendu, tu me le disais juste avant, à 1 million d'exemplaires dans le monde. Mmh. Mais par exemple, Mass Effect 2, aussi, moi, il y a plein de potes qui l'ont acheté quand il était en solde sur Steam. Ouais. C'est qu'en fait, il y a maintenant, avec la dématérialisation, t'arrives à une consommation des jeux qui n'est plus forcément dans l'instant de la sortie. Alors forcément, c'est pas non plus des jeux vieux de 2 ans que toujours, mais la dématérialisation, et en tout cas Steam, les promotions, les relances, etc., ça permet aussi aux jeux de durer beaucoup plus dans le temps, quoi. Moi, même récemment, pour les soldes de Steam, j'ai acheté plein de jeux que j'avais pas acheté cette année, quoi.
Ouais, mais même sans dématérialisation, juste consommer sur le web, par exemple, quand tu vois la dévaluation du prix d'un blockbuster qui sort, on va dire, à 55€ sur un Amazon.com ou un truc comme ça, il y a des jeux qui sont sortis il y a peut-être 4-5 mois et qui sont déjà à 20€ après.
Ah ouais.
Donc effectivement, c'est de ce point de vue-là, la consommation par le net, que ce soit...
Et 20€, 9.
Oui, 9, bien sûr, parce qu'il y a aussi effectivement derrière les occasions. Mais
Et puis l'air de rien, en plus, il y a aussi le phénomène des DLC en fait, qui entretient un petit peu le buzz sur un jeu, et ensuite les éditeurs ressortent le jeu dans une édition complète, etc. Donc il y a une espèce de seconde vie qui commence à s'imposer un peu.
En gros, si je résume un petit peu, ça veut dire qu'on a toujours été focalisé dans notre milieu, et quelle que soit l'industrie, à avoir des résultats immédiats. Aujourd'hui, alors on le voit avec Nintendo dans des volumes de vente, mais intersidéral. Hein. Mais c'est plus des long trails, c'est-à-dire que c'est des jeux qui vont se vendre sur la longueur. On le voit avec le Castlevania, par exemple.
Et ça devient cette année. Voilà. Et aussi, il y a aussi une autre tendance, mais qui rejoint celle-là, c'est les jeux qui se transforment, c'est exactement ce que tu disais, c'est les jeux qui se transforment en service. C'est-à-dire que maintenant, tu as des DLC de plus en plus que tu payes régulièrement. Et notamment, on a entendu parler, c'est une annonce moi, qui m'a fait un peu peur, mais à voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez Bobby Kotick qui disait que, en gros, les jeux Activision, ils auraient tous maintenant une composante, enfin, il imaginait une composante où on paierait mensuellement pour avoir accès en fait, aux DLC. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça pour moi, c'est à la fois effectivement la longue tail et le côté service de certains jeux avec un abonnement à terme, peut-être qu'on paiera. Enfin, on ressort plus facilement un petit peu d'argent régulièrement. Donc le jeu, il y a une partie du jeu qui se transforme
en service. Ouais.
C'est plus indolore.
Bon, écoutez, on va continuer en tout cas dans cette rétro 2010. On arrive au mois de février, qui est lui aussi très fort en termes d'actu jeux vidéo. Alors, il y a eu BioShock 2 qui a été un peu décrié. Personnellement, je l'ai trouvé de qualité, mais tellement moins marquant que son premier épisode.
C'est pas à moi que tu vas dire ça, moi, moi qui avais adoré le 1. Mais c'est vrai que le 2 est quand même très bon. Enfin, c'est vrai que
c'est un bon jeu.
C'est un bon
moi,
jeu.
Je l'ai appelé un bon jeu de 2010, mais pas un jeu historique comme l'est le premier.
Ouais. Pour paraphraser Naufrag, qui avait fait un très bon test, c'est le premier, mais en moins bien. Et ils avaient dupliqué. Enfin, je vous conseille d'aller voir Naufrag, le test sur Naufrag, qui est assez rigolo.
Moi, je dirais le premier sans l'effet de surprise. Tu vois, pour être
c'est
moins
ça,
méchant.
Ouais. Sachant que le premier, non, mais le premier, il faut aussi dire une chose sur ce jeu, en tout cas, c'est que si on regardait que l'aspect FPS et purement machin, c'était pas ce qu'il y avait de mieux.
Non.
Ce qui était fort, c'était tout ce qu'il apportait autour en termes d'histoire, d'univers, etc. Et comme là, on connaît un peu.
C'était pas sa qualité première, c'est ça que tu veux dire.
C'est ça.
Mais
ça restait super
bien fait.
Mais c'était pas sa qualité première.
Mais la qualité d'immersion du deuxième et même les twists étant tellement proches du premier, finalement, pour les connaisseurs, tu revivais un peu la même chose.
Mais j'attends de voir le 3. J'attends de voir le 3 pour le coup.
BioShock Infinite. On en reparlera à début 2011. Donc il y a ce BioShock 2 qui est sorti, il y a eu le Silent Hill Shattered Memories sur Wii qui était une très belle surprise aussi, c'est une sorte de remake du premier Silent Hill qui était sorti sur PS1, tu l'avais apprécié?
Alors moi,
je crois.
Alors celui-là je l'ai pas fait énormément, mais j'avais bien vu la critique sur No Life et toute la dimension psychologique qui a été apportée sur c'était vraiment, il y a un
avec
gros effort
chez le psy,
voilà,
etc.,
qui a été fourni. Et donc du coup là pareil, que le jeu trouve pas son public, là ça fait un peu peur, parce que sur Wii il y a assez peu de titres réellement adultes, et donc du coup j'ai peur que les éditeurs arrêtent complètement d'essayer, ne serait-ce que d'essayer. Donc Mad World marche pas, celui-ci marche pas, donc on va se retrouver qu'avec du Mario. Hein. Moi je suis
content
malgré tout, mais
c'est vrai qu'il faut voir aussi, c'est une moi personnellement, effectivement, j'en ai entendu parler, je sais que c'est un bon jeu, mais moi je suis une grosse flippette, donc moi tous les jeux comme ça, voilà, je les aborde et puis voilà.
Mais c'est pas un jeu terriblement effrayant, mais effectivement, comme le disait Thierry, c'est très introspectif.
D'accord, bon, je ne savais pas à quel point tu étais flippette.
Enfin, peut-être qu'on parlera d'Amnesia plus tard, mais Amnesia, pareil, j'ai commencé à y jouer, mais pareil.
Non, mais là, pour le coup, c'est
là,
normal.
J'ai beau l'adorer, voilà. J'y joue plus quoi.
Mais effectivement, c'est un point très intéressant que souligne Thierry avec l'échec commercial hein, de ce Silent Hill Shattered Memories. C'est aussi l'année où la Wii a proposé vraiment des expériences ludiques de très haute qualité. Hein. On le verra tout à l'heure au fil de ce podcast. Il y a vraiment eu des grands jeux sur la Wii. Mais c'est vrai que c'est des grands jeux un peu universels pour tout le monde. Mais en termes de jeux, on va dire adultes dans son contenu. C'est probablement la dernière année où ils vont tenter effectivement les développeurs.
J'ai bien peur, oui.
J'ai envie de dire oui et non.
Ah rappelez-vous en 2009, Ragal.
Non, c'est entièrement vrai, mais par contre, moi sur Wii, peut-être qu'on y reviendra. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que prenons même un Donkey ou un Super Mario.
Galaxy 2.
Non, le New Super Mario Bros. Bros.
Voilà, merci. C'est des jeux effectivement qui sont assez universels, mais moi, je les trouvais durs.
Ils sont durs.
Ah, okay. On en parlera ouais. Ça. Le challenge.
Donc,
ouais,
donc voilà, c'est qu'un à côté, c'est pas forcément adulte dans la voilà, c'est
dans le sujet.
Dans le sujet, mais en termes de
dans voilà, le traitement, c'est
dans le traitement, plus, c'est pas aussi, c'est pas pour les petits enfants.
Ah, c'est pas pour les casuals. Voilà.
Voilà. Quoique en même temps, quand on jouait à des jeux en étant petit, ils étaient pas faciles non plus.
C'est clair. Non, c'est donc, clair.
Bon, c'est pas pour les petits enfants peut-être, mais en fait.
Alors il y a un jeu, clairement pas pour les petits-enfants, même si un petit-enfant est au cœur de cette histoire, c'est Heavy Rain, qui là vraiment, fin février, a quand même créé l'événement. Alors il y a ceux qui détestent absolument, qui ne pensent pas qu'on puisse l'appeler jeu vidéo, et puis il y a les autres, ceux qui ont justement trouvé qu'il y avait quelque chose de différent, d'original, en tout cas une nouvelle voie qui s'ouvrait. Je crois qu'à Gameblog, clairement, on fait partie de cela. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce polar interactif?
Alors moi je suis partagé parce que je vais expliquer ce que j'ai aimé dedans. C'est bien, c'est ce qui va être le plus court. En fait moi ce que j'ai aimé dedans, pour ceux qui ont joué, c'est au tout début, à un moment on se bat entre guillemets avec son enfant,
ouais.
On joue avec et on fait des quick time events, enfin, on appuie sur les boutons pour gagner contre lui, voilà.
Dans le jardin, ouais.
Dans le jardin on joue à un petit jeu et on se bat comme ça. Et moi ce que j'ai vachement aimé, c'est juste ce moment là c'est que au début, moi j'avais des réflexes de jeux vidéo,
ouais.
Donc je remplissais X, croix, machin, et donc je lui mettais
Tu le défonçais.
Je le défonçais. Et à un moment, j'ai fait exprès de perdre pour que mon gamin il soit heureux et qu'il, voilà, et qu'il gagne un peu et machin. Et ça j'ai vachement aimé. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait une implication vraiment émotionnelle et tu en arrivais à toi-même casser tes codes de jeu,
ouais.
Pour l'enfant. Maintenant. Passé ça, moi j'étais vraiment déçu par le jeu parce que ça m'a vraiment rappelé en moins bien Blade Runner il y a très très longtemps.
Ah oui, sur PC. Ouais.
Sur PC, qui était en fait un jeu pareil où il y avait. C'était pareil, c'était un non-jeu un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait il y avait moins d'action.
C'était plus un jeu d'aventure.
C'était plus un point and click, etc. Mais pareil, où il y avait une aventure que tu suivais et parfois tu étais juste spectateur, etc. Et moi j'ai trouvé ça. Enfin, ça m'avait beaucoup plus marqué que Heavy Rain. Donc, je reconnais des qualités, mais pour moi, c'est intéressant. Mais pour moi, il ne mérite pas d'avoir aussi autant vendu, en fait.
Juste avant de te donner la parole, Thierry, alors effectivement, je resitue en termes de ventes. Sur le global de l'année 2010, ça fait 1,7 million de ventes. Donc, c'est plutôt un succès
très
correct.
Très beau succès.
C'est pour une exclusivité succès. PS3. On sait que les exclusivités PS3 ont un peu plus de mal à se vendre que les exclusivités Xbox 360, comme les Gears of War, les Halo, qui font des cartons toujours assez impressionnants. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit parce que j'ai ressenti exactement la même chose. C'est pour moi le premier jeu dans lequel je ne suis pas dans une logique de jeu vidéo, justement, c'est-à-dire à vouloir réussir ou à pousser un personnage de polygone pour lui faire faire des actions. Mais je me suis dit, sur les nombreux choix qu'on a à effectuer, c'est pas les choix de ce héros, mais ce seraient les miens si j'étais confronté à cette situation. Et du coup, je les ai pesés et mûris d'une manière radicalement différente. Vraiment, en tant qu'homme, confronté à la perte d'un enfant alors que je n'ai pas là mais que j'imaginerais avoir et comment je fais et... Papa et ça j'ai trouvé que c'était très fort avec les imperfections qu'il a bien évidemment.
Non, ouais, c'est vrai que moi c'est ce truc au début que j'ai aimé. Après j'ai trouvé que c'était on peut encore aller plus loin, ça peut être mieux écrit, ça peut...
Y a, mais c'est y a un encore... bon début quand même, ça ouvre une voie.
C'est intéressant, c'est intéressant.
C'est ça
intéressant.
Surtout, quoi, c'est que même si c'est pas parfait, c'est impossible de pas reconnaître que ça n'est pas intéressant pour le jeu vidéo, pour le média, ouais, pour la narration, pour plein de choses. Et pour revenir
ça.
À l'exemple que tu donnes, qui est vraiment effectivement un des moments forts du jeu, ce qui est curieux, c'est que paradoxalement, ceux qui ne sont pas des habitués du jeu, quand on leur présente le truc en leur disant bah tiens ça c'est différent ça pourra peut-être te plaire, eux sont dans la... ils sont tellement ils perçoivent tellement le jeu vidéo comme un jeu justement où il faut gagner, il faut obtenir quelque chose, qu'ils sont presque plus soumis au code du jeu vidéo que nous qui avons l'habitude et qui plutôt tentons de faire autre chose. Voilà. Donc c'est un peu bizarre.
Moi, Heavy Rain, je l'ai vraiment vécu genre à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau joueur pur, basique, où là, l'expérience, je ne l'ai pas spécialement appréciée, parce que le gameplay basé sur du QTE, ce n'est pas un truc qui me plaît énormément. Par contre, quand tu prends du recul, donc par rapport au milieu, par rapport aux médias jeux vidéo, c'est quelque chose, c'est un travail qui est très intéressant. Ensuite, en termes d'approche cinématographique, je pense que le jeu a vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail, par exemple, sur tout ce qui est attente dans le jeu. Moi, j'aime beaucoup la scène dans l'appartement, au début avec le gamin.
Ouais. Oh, c'est la meilleure scène du jeu.
Et cette scène ensuite où tu lui fais à manger, et tu as les plans de caméra très lents, en fait, qui tournent et qui imposent une vraie lourdeur. Et d'un autre côté, le scénario, il est pas au niveau des références citées comme Seven, etc. Et donc, du coup, il y a encore un effort à ce niveau-là au niveau de l'écriture. Mais c'est vraiment l'effort, c'est bien l'avoir fait. Mm-hmm. C'est intéressant. Ensuite, c'est clairement pas mon jeu favori.
C'est surtout bien que ça ait marché à ce point-là, en fait.
Oui.
Oui, oui, parce que ça aurait été un four. Tout le monde a dit, on va pas continuer dans cette voie-là. Ouais, tout à fait.
Mais justement, je trouve que, on va dire, sur ce moteur de jeu, comme on les appelle pour d'autres styles de titres, j'aimerais vraiment voir d'autres histoires, d'autres aventures.
C'est-à-dire un truc avec des ninjas et des aliens, par exemple.
Par exemple. mais j'ai bien aimé, moi, ce côté justement très réel et avec un peu de pathos, une histoire qu'on nous raconte assez rarement dans le jeu vidéo.
Des
polars,
on a
toujours des héros
très forts,
très puissants.
Après, si tu veux, moi, je comparerais le scénario comme un bon scénario de fiction française par rapport à un bon scénario de fiction américaine.
Ah non, mais
ce que je veux dire,
c'est très imparfait le scénario.
C'est
ça, on est d'accord.
Genre, c'est bien, c'est un début, mais voilà, c'est comme les séries françaises par rapport aux séries américaines. Voilà, il y a un gap encore à franchir, clairement.
Et bien, alors, puisqu'on parle de séries, moi j'ai trouvé que justement l'une des forces de Heavy Rain, c'était comme Lost, la série. C'est pas tant ce qu'on voit, ce qu'on vit, mais le voyage qu'on vit tous en y jouant, et après, ce qui se passe hors jeu. Ça veut dire que moi, c'est la partie que j'ai préférée.
C'est l'échange.
C'était après, une fois que je l'avais fini, de parler avec Raan, avec Julo, de comparer nos fins. J'ai pas voulu le refaire. Parce que pour moi, ma fin, qui m'a pourtant en partie déçu, c'est ma fin. C'est la mienne, c'est mon histoire. J'ai pas envie de le faire comme un jeu vidéo traditionnel où je reprends ma sauvegarde, je recommence juste un niveau, tac, je recommence, juste pour bonifier mon expérience. Pas du tout. Et comparer les fins, et on en a eu certains, on a eu Bliss par exemple qui nous a raconté sa fin, qui est apocalyptique, où t'as envie de te tirer une balle et tu te dis mais putain, il y a ça dans le jeu.
Ça c'est fort dans les jeux vidéo. Et moi, dans un autre genre, moi c'est ce que j'aimais le plus dans Fallout 2, qui est pour moi mon jeu de tous les temps, mon top 3, mon premier. En gros, c'est ça, c'est que quand il joue, en gros, quand on parle après, tu n'as pas du tout vécu la même chose. Mais pour le coup, moi personnellement, sur Heavy Rain, j'ai pas ressenti ça quand j'en ai parlé avec d'autres gens. C'était genre c'est de la merde. C'est de la merde. Mais bon, voilà, en accentuant effectivement les faits, parce qu'il y a quand même des bons côtés dedans.
Exactement. Allez, un autre petit jeu que j'avais retenu pour en février, c'est un jeu dématérialisé, mais lui aussi assez original. Est-ce que vous aviez essayé les mésaventures de PB Winterbottom?
Moi carrément.
Alors,
il y a des petits points où on peut faire un parallèle avec Braid, mais c'est l'approche graphique, là une nouvelle fois, est sublime. Et pour moi,
donc,
2010.
Situe un petit peu pour ceux qui seraient passés à côté.
Alors, c'est un petit personnage un petit personnage avec un chapeau de forme. C'est pas un robot.
Qu'est-ce qu'il m'a raconté?
Pourtant, j'y ai joué, je suis en train de mélanger. Non, en fait, c'est marrant parce que quand j'y pense, j'imagine Bender en fait.
D'accord. Ok.
Je sais pas pourquoi.
Et donc, c'est un personnage avec un haut de forme et donc il part à la recherche de tartelettes. Ouais. Et en même temps, brise en fait une espèce d'horloge temporelle qui lui permet de se démultiplier et ensuite de jouer avec ses propres clones. Et donc, en termes de gameplay, de level design, les mecs se sont vraiment éclatés et on s'amuse énormément. C'est très très beau.
Un jeu qui était Flash à la base, celui-là, ou c'est technologie Flash ou je sais plus quoi?
Je crois pas.
Écoute, régale, tais-toi.
C'était
longtemps,
2010 pour tout ce qui est production téléchargeable, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été juste une année sublime.
On peut en parler d'ailleurs. Ouais. On peut rentrer un petit peu dans ce petit point. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Super Meat Boy, par exemple.
Limbo aussi.
Moi j'ai noté Pac-Man CEDX, ouais. Turi, Beat Trip Runner, un merveilleux jeu de plateforme.
Ah, celui-là, je connais pas celui-là.
Super Meat Boy, il est aussi.
Ouais. Je ne touche pas ça.
Limbo, quoi, c'est Tim Burton qui fait un jeu vidéo. Ouais. T'as Arkido série 3 pixels, donc sur le XNA qui était vraiment super fun. Plants vs Zombies, Super Meat Boy, Lara Croft, un nouveau Guardian of
Light,
qui est sorti cet été, qui était vraiment genre à deux, c'est un vrai bonheur. Machinarium sur PC.
Là, c'est un robot le héros.
Ah, tu, c'est peut-être
dans Machine Arena.
Ah, voilà, c'est ça.
Genre, une grosse année. Et c'est marrant quand on voit un petit peu tous les tops, genre de, bah, des critiques, des médias un peu partout. T'as systématiquement au moins 3-4 jeux sur les top 10 qui sont des titres téléchargeables. Donc il y a vraiment une vraie avancée à ce niveau-là.
Parmi lesquels il y a du jeu indé beaucoup.
Oui.
Mais ce qui est marrant aussi, c'est que nous, à Silence on Joue, on avait invité des développeurs indépendants. Et en fait, donc, nous, joueurs, on n'entend quasiment pas parler. Et ça, c'est intéressant parce que ça en 2010, ça a vraiment connu un boom énorme. C'est les plateformes de téléchargement de jeux, on va dire, grand public.
C'est-à-dire PC, Flash, web-based,
Flash,
etc.
Ou même des vrais jeux. Même des vrais jeux. Nous, on connaît GamesPlanet, Metabolis, ces genres d'activités. Mais il y a d'autres portails. Je connais plus les noms, mais je crois que c'est Big Fish, Big Point, machin.
Point.
Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Big Point, c'est plus sur les MMO.
Ouais.
Mais il y a Playfish. Je sais plus. C'est des gros trucs qui, en fait, aujourd'hui, les développeurs qui font un jeu genre d'aventure, machin, ils ont maintenant un public. Un vrai public qui est là pour télécharger. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais pas du tout vu ça, vu que c'est pas des jeux qui sont faits, on va dire, pour nous, quoi.
Pour nous, gamers.
Tout à fait.
Alors là, on peut peut-être dire un petit truc sur les plateformes de téléchargement sur console. En termes de visibilité, pour l'instant, c'est pas encore ça. Sur le XBLA, c'est pas mal. C'est relativement bien mis en avant. Tu vois les dernières sorties, il y a un petit onglet spécifique. Sur PlayStation Network, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Il y a tout est mélangé. Et sur le WiiWare, il faut vraiment y aller. Donc il y a le temps de chargement, etc.
Mais maintenant, il y a des démos depuis quelques temps.
Pas des masses, mais ça arrive, ça c'est
avant,
bien.
Effectivement, on pouvait même pas essayer, donc c'est vrai que c'est entre guillemets petit jeu pour des gens qui connaisseraient pas trop. Ils osent pas, quoi, ils y vont pas. Mais ce qui est symptomatique quand même, c'est que depuis quelques années, regardez, Braid, Flower, les jeux dont on est en train de parler, il y a de plus en plus de ces jeux-là qui sont des jeux majeurs des années, de chacune de ces années-là.
Clairement, moi,
ça échange, quoi.
Clairement, pour moi personnellement, mon gros coup de cœur de l'année, moi, c'est Limbo, que je mets même devant Red Dead Redemption ou des énormes titres cette année. Donc vraiment les jeux, tu me regardes en vous. Donc les jeux indés, vraiment, de toute façon, je pense qu'ils sont maintenant là pour durer, quoi. Clairement, ils sont vraiment installés, quoi.
C'est pas cher.
Après, ils font pas tous des ventes astronomiques non plus. Donc même s'il y en a dont on parle beaucoup, genre Flower par exemple, avait pas particulièrement marché commercialement.
Habide.
Ouais, donc voilà, mais effectivement, c'est une percée et ça va probablement effectivement continuer.
Et c'est des jeux qui restent tout le temps en rayon, quelque part, parce que c'est du virtuel. Donc du coup, Flower, on peut encore en parler aujourd'hui, intéresser
mais
les gens,
ça c'est bien.
Mais ils
sont pas mis en avant.
C'est ça.
Non.
C'est le gros problème, et on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera peut-être un petit peu rapidement l'explosion des jeux sur iPad, sur iPhone, ces petits jeux-là. C'est vrai, ils ne coûtent pas très cher, mais c'est vrai qu'il faut se battre, être vraiment dans les tops, dans les tout meilleurs. Pour avoir de la visibilité aussi, parce que sinon, après, il y en a 60 000. Donc
ou être innovant dans ta manière d'être distribué, comme Angry Birds, on en parlera.
Effectivement. Bon, on arrive au mois de mars 2010, et alors là, attention, phénomène. Si c'est vrai que le début de l'année, en France en tout cas, en termes de volume de vente, a été malheureusement pas à la hauteur de la qualité des jeux qu'on a cités, Final Fantasy XIII débarque en France, et alors là, c'est un tsunami, un véritable raz-de-marée. Les ventes s'emballent. En un mois, je parle du monde, c'est plus de 5 millions d'exemplaires. En France, je crois que ça a été très rapidement près de 300 000 ventes, ce qui est colossal pour le marché français. En tout cas, les revendeurs ont retrouvé le sourire. En revanche, les joueurs, je ne sais pas si c'est comme pour nous, mais enfin, on a été déçu par ce dernier Final Fantasy.
Oui, non, c'était de la merde. C'était de la merde. Non, mais clairement, c'est ça qui est marrant, c'est que t'as la force de la licence quand même. Tu sors un Final Fantasy XIII.
Il y avait une attente.
Mais c'est flippant quand même, parce que ce jeu-là,
D'habitude, c'est quand même des jeux. Bon, il y en a des meilleurs et des moins bons, mais c'est quand même de très bons jeux à surveiller.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que même les journalistes ou même les critiques ou même les disait pas forcément trop de mal de jeu là, parce que comme il était, c'est la force d'une marque attendue, tu dis c'est pas possible, je peux pas mettre deux, enfin, tu vois, je veux dire, tu peux pas, je dis pas qu'il vaut deux, tu vois, mais en gros, j'ai trouvé que
Tout le monde marchait sur des œufs.
Tout le monde marchait sur des œufs, et qu'en fait, bah, c'est simple, si t'as un phénomène mouton, si t'as 5 millions de personnes qui l'achètent, tu dis bah attends, voilà, tu vois, et même tu t'attends à ce qu'un Final Fantasy soit bon. Donc tout le monde l'achète.
Mais il y en a d'autres comme ça, genre moi je pense à Resident 5
par exemple.
Après le problème aussi c'est que
mais je sais même
alors,
pas
si pas aller avec des œufs dans un Gameblog.
Mais je sais même pas par exemple si FF13 qui est pas génial, voilà, euphémisme, ça va mettre en cause la, le 14 ou le 15 ou le 16 ou le 17, je sais pas.
On va en reparler justement quand on abordera le Tokyo Game Show, etc. Mais les développeurs japonais, ça y est, alléluia, enfin, commencent à ouvrir les yeux et on reparlera de FF13.
Parce que si ça marche, ça se vend, oui, mais ils ont pourquoi peur. Ils changeraient
mais parce qu'ils ont vu quand même toutes les critiques, même après sur les forums ou genre de jeu, parce que c'est des jeux qui repartent très vite en occasion aussi.
Regarde ce qui se passe sur FF14. Ils le sentent. Rien que sur FF14, il y a quand même. Bon, alors évidemment, après, le contexte est un peu différent,
passé,
c'est un MMO.
Il est passé en free-to-play en attendant.
Je pense que c'est pas les mêmes joueurs, hein. c'est ceux qui jouent au
13. Non, c'est pas les mêmes
14,
joueurs, mais c'est les mêmes développeurs. Et ces développeurs, c'est quand même Square Enix, c'est des vrais développeurs japonais qui ont fait FF14 aussi, des gens qui sont avec Square depuis longtemps, qui ont travaillé sur d'autres FF avant, et qui font des mea culpa en disant on a merdé ci, on a merdé ça.
Et qui ont été virés.
Oui.
En tout cas,
pour le 14,
délocalisés, oui, on va dire, de leur.
Donc il y a une vraie réaction immédiate, alors que le jeu n'est pas encore sorti sur PS3. Qui est quand même à la base la plateforme pour laquelle qu'il vise aussi à conquérir. Donc il y a déjà une réaction par rapport à ça. Ils sont attentifs en tous les cas. Après, il faut voir comment est-ce que ça va se concrétiser éventuellement. Mais
un petit mot sur FF13. Alors donc moi, la Redagon Life, c'est les gens sont pas aussi radicaux que ça. Le système de combat, a priori, était vraiment intéressant.
C'est vrai.
Ensuite, donc c'est un jeu qui est assez symptomatique de. Bon, déjà, il y a la problématique de la next-gen pour les développeurs japonais. Donc là, pour le coup, sur une console HD, c'est magnifique. Genre en particulier sur PS3 avec des cinématiques en 1080p, c'est clairement un jeu que tu achètes, ne serait-ce que pour le montrer.
Et sur les cinématiques, parce que dans le jeu, c'est très inégal.
C'est inégal.
Très inégal.
D'accord.
Et puis le syndrome couloir.
Et ça, c'est
à la
quelque
serpe,
chose
quand
qui,
même.
Malheureusement, je pense, c'est un petit peu genre pour le public occidental. En fait, ils essayent de simplifier à mort en fait le gameplay. Ils essayent de faire en sorte que ce soit plus immersif et donc du coup plus linéaire, plus cinématographique. Et on se retrouve avec des jeux comme ça qui au final déçoivent.
Puis l'histoire.
Ça, l'histoire ensuite sur la plupart des productions japonaises, c'est pas toujours ultra travaillé, quoi. C'est
mais
très
Final Fantasy quand même. Alors pas toujours, hein, c'est vrai. Mais enfin, on a souvent eu des thèmes quand même assez forts, l'émotion. Mais j'ai l'impression vraiment que depuis que Sakaguchi, donc le père, le véritable père de Final Fantasy, qui est parti après Final Fantasy 9, depuis qu'il est parti, quand même, ça va de mal en pis au niveau des émotions ressenties dans les Final Fantasy. Et là, il y a certains personnages, si t'as pas envie de les baffer, mais avec des bandes velcro sur lesquelles tu mettrais des copeaux de verre. Je sais pas quoi faire. Quoi. Faut les tuer, quoi, ces personnages. Hope, si tu m'écoutes, espoir, tu te le mets dans le cul.
Catastrophe,
ce personnage. Enfin bon. Donc FF13, on lui a réglé son compte. Et effectivement, le système de combat qui était fait par le même mec que le système de combat d'FF10, qui était exceptionnel,
qui était
à ce niveau-là.
Bon aussi,
et ben, effectivement, surnage, tout comme les musiques, qui sont très belles. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Final Fantasy. Bon, néanmoins, il a permis de retrouver un petit peu de couleur, de vivacité au paysage vidéoludique en termes de vente, en tout cas, pour arriver au mois d'avril avec la sortie d'un jeu qui s'est fait longtemps attendre, à une exclusivité Xbox 360 de la part d'Ubisoft. Il s'agit de Splinter Cell Conviction, qu'on avait découvert il y a plusieurs années dans un mode un peu plus 24 heures chrono avec un
Sam barbu,
un Sam un peu à la Jack Bauer. Et ben ça a été tout simplement viré et le jeu a été recommencé. Tu peux nous en parler un petit peu, Thierry?
Ah ouais, moi j'ai bien aimé Splinter Cell Conviction. J'ai trouvé que donc ils ont su conserver quand même genre toute la dimension un petit peu infiltration, l'obligation de d'arriver comme ça en scrud et de tuer des mecs pour ensuite débloquer la possibilité de les abattre très rapidement. Donc tu avais un gameplay qui était à la fois infiltration et en même temps extrêmement action. Là, ils ont speedé tout le gameplay.
Ils ont beaucoup bossé les caméras.
Les caméras sont très travaillées. Le côté cinématographique du jeu est vraiment important. On a l'impression de jouer avec Jason Bourne.
Bien plus impressionnant que dans les derniers Splinter Cell. Moi, c'est ce que je leur reprochais. C'était toujours au niveau de l'infiltration, c'était plutôt bon, mais il n'y avait pas d'immersion. On n'était pas dedans. Là, avec ce Conviction, effectivement, il y a l'aspect cinématographique, comme tu le disais, était bien plus souligné.
Par contre, pour le coup, le fait d'avoir changé le personnage, moi, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. C'est-à-dire, ils auraient pu faire un titre vraiment hardcore, genre on pensait un petit peu genre cinéma années 70, un vrai héros badass, tu vois, le mec qu'on a plus rien à foutre, etc. Et là, il se fait encore mener par le bout du nez. Et t'as des petits moments dans le jeu, en particulier un moment avec la musique de DJ Shadow qui arrive derrière, où il pète un câble complet.
Ah, cette scène est vraiment bien.
Mythique, mais pas parfait, mais vraiment bon quand même, genre un effort justement pour renouveler un petit peu la série. Et la campagne coop, top.
Oui,
excellent.
C'est vrai.
Excellent.
Et très bon coop, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, que c'est la vraie prise de risque ou le changement de cette scène avec où il y a Sam qui devient complètement furieux et berserk.
Et la musique qui monte tout doucement comme ça, qui aurait pu être encore mieux mixée, c'est un vrai passage où tu sens que les mecs se sont fait plaisir.
Mais c'est vrai qu'il est peut-être sorti à une époque, moi, bah, du coup, vous me donnez envie de le continuer. Parce que
t'as pas été jusqu'à ce niveau-là.
Voilà, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il est sorti à une époque vraiment bâtarde pour le coup, parce qu'il y avait tout. en tout cas pour moi, j'avais plein de jeux auxquels je jouais et auxquels je devais jouer. Parce que
puis la bêta de Sens Critique était à fond, et voilà, bon, il fallait lancer à la fois. Lancer, bon.
Etc. Mais en gros, même sur mon temps de jeu, à ce moment-là de l'année, il n'a pas réussi à s'imposer. Et après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Ouais. Bah, voilà, après, il y a eu Red Dead. Et, bah, oui. Voilà, et donc, il y a eu d'autres jeux qui sont arrivés derrière. Et je pense que là, il a peut-être pâti parce que je crois qu'il s'est pas très bien vendu.
Non, ça a pas été un grand succès. Voilà. De
et je pense que lui a pâti pour le coup de
sa date de sortie.
De sa date de sortie, ouais.
Je suis assez d'accord.
De son planning.
Mais néanmoins, ça nous permet quand même de voir que là maintenant, on va donc arriver au mois de mai, donc quasiment à la moitié de l'année, et qu'on a quand même déjà parlé de titres majeurs, hein, ce qui est quand même assez rare. On verra que 2011, ça va partir sur les mêmes chapeaux de roue. Alors donc voilà, le mois de mai, c'est le mois de probablement pour beaucoup, alors peut-être.
Le
Game of the Year, Red Dead Redemption. Alors c'est pas une nouvelle licence, hein, puisqu'il y avait déjà un premier Red Dead qui était sorti, mais c'est vrai que bon, il est passé un petit peu inaperçu, ça avait été un développement fait par Capcom, repris derrière, enfin ça avait été un peu compliqué et tout. Le vrai Red Dead, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de cette chevauchée comme ça avec John Marston?
Bah du bien. non voilà, c'est vrai que c'était c'est là où tu vois que Rockstar, quand même, ils sont forts. Parce qu'ils ont réussi. Ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à la fois. Tout le monde sait ce que c'est le jeu, on en a parlé, voilà. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est au-delà du gameplay, c'est le côté reprendre tous les codes d'un univers et le mettre dans un jeu vidéo et faire de ce jeu vidéo vraiment aussi un hommage total à cet univers-là. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce qu'on retrouve tout ce qui fait les westerns de toutes les catégories de westerns, du spaghetti jusqu'au western impitoyable, au western un peu plus rugueux, etc. Avec toutes les références, non, vraiment, vraiment, c'était beau. Après, c'est vrai que moi, j'ai...
Tu l'as fini ?
Non. Ah. Non.
Cette année, symptomatique de beaucoup de joueurs.
Cette année, moi.
Je crois que c'est le multi en fait aussi. Hein. Genre, le multi était tellement bon qu'il y a plein de gens qui ont switché, qui ont arrêté la campagne et qui ont monté leur personnage.
C'est une énorme erreur parce que le statut culte de Red Dead, c'est vraiment son dernier quart. Quoi.
Mais voilà, mais le problème cette année, pour quelqu'un qui maintenant ne travaille plus forcément dans les jeux vidéo, qui a plus le temps de jouer.
Quand tu travailles dedans, t'as voilà,
c'est presque pire quand tu travailles dedans.
Mais en gros, c'est clair qu'avant, je choisissais quand même certains jeux, je les finissais. En 2010, avec tout ce qu'il y a eu, j'en ai pas fini beaucoup. Quoi.
Bah, l'année prochaine, t'en finiras pas des masses non plus. Hein.
Voilà, et il faut que je finisse déjà ceux de cette année. J'ai fini Limbo.
Ah, oh.
Et But That Was Yesterday, je l'ai fini aussi.
Red Dead, il y a aussi un autre truc, c'est que c'était pas gagné au départ. Donc il y avait pas mal de gens qui disaient le western ça signifie rien pour les nouvelles générations en fait. Et donc du coup, est-ce qu'ils vont réussir à ce que le jeu va marcher, etc. Il y avait de gros doutes sur les financiers un petit peu derrière. Et au final, ils ont su imposer le truc et peut-être donner envie à plein de gens de redécouvrir des purs chefs d'œuvre.
Mais je pense que c'était une approche qui était plus européenne parce qu'aux États-Unis, le western quand même, bon, c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part quoi pour les Américains. Et même si le développeur
c'est plus dans leur culture, c'est plus
pour
dans
les Américains qui ont nos âges peut-être. Parce que les jeunes aussi, genre c'est quoi le dernier western qui a marqué
Genre au cinéma ou machin, oui non je sais pas. Mais c'est en tous les cas plus inscrit dans leur culture à eux que dans la nôtre.
C'est vrai.
Voilà. Mais moi j'aime pas particulièrement le western à la base, je suis pas un grand fan de western et c'est vrai que ce jeu là m'a vraiment
Et puis voilà, et Red Dead, ce qui est marrant sur Red Dead, c'est que c'est aussi... Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien. Il y a un truc qui est apparu sur l'écran du Mac.
Que se passe-t-il? Non, voilà. Ce qui est fort sur Red Dead, c'est qu'aussi, pour moi, c'est l'exemple typique du blockbuster, du jeu AAA, qui a cet aspect service avec beaucoup de DLC, et du DLC gratuit de qualité, du DLC payant, mais pas très cher par rapport à ce qu'il offrait, l'add-on avec les zombies, les machins. Il y a eu plein de choses. Et je pense que quelqu'un, en gros, aujourd'hui, si t'achètes un jeu, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en mai. Voilà, aujourd'hui, en fin d'année.
Red Dead and Mare, c'était en fin d'année.
Tu peux encore y jouer. Voilà, tu joues qu'à ce jeu-là et tu donnes ton argent qu'à cet éditeur-là, etc. Donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là.
Et puis en termes de valeur de production, si cher à Rahan, c'est quand même vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on a un jeu gigantesque, on a un personnage et une histoire mature. Pas du tout gnangnan, John Marston qui est tiraillé entre. C'est pas le méchant qu'on attend, c'est pas un gentil.
Ouais,
non
moi
plus.
Je trouvais que là justement ils ont un peu manqué de couilles, mais d'un
mais
côté je peux le comprendre. Ouais, mais par exemple la drogue, toute l'utilisation de drogue, de machin, etc., que tu peux faire d'un côté dans la GTA et les machins, là à un moment c'était genre non, il a un petit côté moral.
pas avec la drogue, avec les nanas. Oui, dit je suis marié tout le temps, je suis marié.
Mais justement, je trouve ça bien.
Mais ouais, ça rentre dans le personnage.
Ça change. Un vrai personnage bien écrit. Et en plus, j'aime bien le début du jeu aussi, qui est anti-spectaculaire, qui impose ce mec qui est vraiment assez atypique dans les héros pour le jeu vidéo.
T'as des missions où tu vas faire vraiment le cowboy. Ça qui est bien aussi, tu vois.
Moi, j'aime bien ça.
Mais moi, j'adore.
Ça m'a fait bizarre d'aimer sous la tempête avec mon cheval et juste les vaches.
Ouais, mais grave.
Et après, tu te poses des questions sur toi-même.
Ok. Mais ouais, mais bon.
Allez, on arrive au temps fort de l'année 2010, comme toutes les années.
Thierry. Il y avait un truc, il est sorti quand exactement Super Mario Galaxy 2? Il est sorti
en juillet.
Juin. En juillet,
il me semble.
D'accord, donc on en parle juste après. Alors.
On en parle
juste après. Parce que c'est lui le jeu de l'année.
On va en parler. Mais justement, en juin, du 15 au 17 juin, c'est le 3 2010, la grand-messe du jeu vidéo. Et cette année, c'est vrai que ça a été quand même particulièrement riche. Alors, on connaissait Natal. On a découvert Kinect avec un grand barnum, une grande fête orchestrée par la fameuse troupe du Cirque du Soleil. C'était l'occasion aussi pour nous véritablement de mettre enfin la main, les pieds, le corps sur les premiers vrais jeux et pas juste des démos. Qu'est-ce que vous en aviez pensé en le voyant, en tout cas le ressenti de ce que ça pouvait aller donner? On en reparlera plus concrètement quand on arrivera au mois de novembre et son lancement.
En l'essayant, j'avais déjà des doutes sur la réactivité en fait des contrôles et malheureusement cette peur s'est un peu confirmée. Donc sceptique dès le début.
Ouais.
Voilà. Ensuite, ils ont mis quand même les moyens pour impressionner les gens sur le 3. Il est clair que le show était totalement spectaculaire. Mmh. La mise en scène du truc avec les décors, c'était carrément invraisemblable. Les décors qui tournaient sur eux-mêmes, c'était un gros show quoi.
Ouais. Moi, j'étais pas le 3 cette année, mais c'est juste pour être un peu langue de pute, parce que tu parlais des premiers vrais jeux, moi je les attends encore.
Bien sûr, voilà. Tout le monde. Hein.
C'est, après, je trouve ça intéressant pour l'avenir, et moi c'est plus, on va peut-être revenir dessus sur Tokyo Game Show, où là il y a eu des jeux intéressants pour Kinect présentés. Ce que je retiens aussi, c'est quand même, ils ont mis quand même 500 millions de dollars de marketing dessus, et donc ils vont réussir à l'imposer.
Étant si sûr que ça. On va en reparler en novembre les jeux etc. Mais
moi on m'en parle autour de moi. Hein, j'ai des gens autour de moi qui sont pas joueurs. Et autant le Move que Kinect, les gens en parlent. D'accord. Parce qu'ils ont encore passé l'acte, mais en tout cas ils en parlent.
Bon, on va en reparler justement. Tu nous donneras un petit peu les détails de ce que tu ressens toi par rapport aux gens qui t'entourent. Et on va comparer un petit peu toutes nos expériences là-dessus quand on arrivera en fin de podcast avec justement la sortie en septembre du PlayStation Move et en novembre de Kinect. Mais là, autre annonce de l'E3 majeure forcément, c'est la Nintendo 3DS. C'est Nintendo qui frappe très fort. On parle partout, au cinéma, sur la PS3. De la 3D relief, mais il faut mettre des lunettes. Là, Nintendo annonce pour donc début 2011 une machine qui nous permettra de l'avoir de la 3D relief sans lunettes.
Premier Thierry. Truc que j'apprécie, c'est que la 3D, j'ai l'impression qu'on essaye de me l'imposer. Et donc, par exemple, pour aller dans une salle de cinéma, tu payes 4€ de plus, tu galères pour trouver en fait le même film sans la 3D. Moi, ça me fait un peu chier. Donc, le simple fait que tu aies ce bouton qui te permet de déconnecter en fait la 3D, moi, ça me plaît. Déjà, il te laisse le choix.
Je pense pas qu'il soit là pour ça, mais
c'est aussi.
Mais effectivement.
Il y a toujours la question aussi sur la fatigue provoquée au bout d'un moment, genre. Un film ça dure 2 heures, un jeu vidéo tu peux y passer heures, une nuit blanche.
Moi
dessus.
Personnellement c'est peut-être parce que j'ai de la merde dans les yeux et je porte des lunettes et je suis hypermétrope, mais en tout cas j'ai joué avec mes lunettes, donc j'ai joué et assez juste au jeu de démo qu'on a vu, moi assez vite j'étais fatigué en fait.
Mais c'est normal en fait.
Voilà. Est-ce que par contre moi ce que je vais retenir dessus, ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que je sais plus si vous vous rappelez comment ça a été annoncé. Mais c'est pas été annoncé en grande pompe, etc., etc. C'était un putain de communiqué de presse de merde.
Oui, parce qu'il y avait une fuite dans le Nikkei.
Initialement, quelques mois.
Mais c'était marrant. C'est qu'en fait, elle était annoncée, que Nintendo annonce son produit phare et qui, à mon avis, va exploser comme ça. Je trouvais ça extrêmement japonais. Dans le style extrêmement.
Ils
n'ont
pas eu le choix. Je resitue ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, effectivement, pas à l'E3, mais 2-3 mois avant, on a un communiqué officiel qu'on reçoit de la part de Nintendo qui annonce que sa nouvelle console portable, dont le nom de code à l'époque était Nintendo 3DS, et on priait tous pour qu'il la garde parce que c'était plutôt bien vu quand même, serait avec de la 3D relief utilisant l'écran Sharp. Et en fait, c'était pour devancer l'annonce de Sharp qui avait fuité dans la presse japonaise.
En fait, on a su ce que ça allait être. On a su ce que ça allait être à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un communiqué, mais balancé.
Oui, comme ça.
comme ça, genre alors que n'importe quel autre constructeur
parce que c'était pas prévu à la base,
voilà, aurait fait une vraie annonce, ou, voilà. Mais ça c'était quand même assez marrant, et du coup c'était la puissance de Nintendo quand même qui annonce en une toute petite news comme ça. Ouais.
Pour marquer le coup à l'E3, néanmoins, la première fois, il y avait quand même 200 hôtesses avec des poitrines plus 3D. Que du 3D, hein, qui était quand même assez hallucinant.
Non, mais c'est vrai que la scène était incroyable. Quoi. Ah t'es c'est... assise dans la salle, c'était fils aimé. Hein,
oui, c'est ça. Et voilà la 3DS. Bon, voilà, et la 200 bonasses.
200 trucs de fou. Quoi.
Non, mais au-delà des bonasses, ce qui est.
Mais chacune avec une console, etc.
Ce qui était intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, pour montrer, et ça, c'était la force de la chose, c'est comme la 3D, nous. Moi, j'ai suivi le 3 de Paris. Tu peux pas le voir sur un écran. Ouais. Donc, la grande force, c'était de dire regardez, utilisez. Et après, tous ces journalistes qui l'ont utilisé, ça a été des petits RP à leur tour qui ont.
Apple Style.
Soyons honnêtes. Hein, on est. Moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Raon, mais nous, on était dans la salle, etc. On attendait, on se disait bon, c'est quoi l'effet 3D, etc.
On s'est jeté sur la première meuf qu'on a trouvée.
Voilà, et c'est bluffant. Ouais. C'est-à-dire que l'impression de relief est saisissant. Et c'est vrai qu'après, pendant le salon, on a eu la chance de pouvoir la garder plus d'une heure avec nous, d'essayer l'intégralité des démos de jeux. Et on va en reparler aussi, parce qu'au-delà de l'annonce du côté spectaculaire de la technologie, il faut voir le listing de jeux qui arrive. Hein.
Il y a plus de 70 jeux. Il y a plus de 70 jeux aujourd'hui qu'on sait qui sont en développement.
Et puis alors, pas des moindres hein, quand même. Ouais. Mais juste donc pour finir, effectivement, on sent une fatigue. Mais c'est vrai, rappelez-vous le podcast qu'on avait fait avec Florent Gorge, qui nous parlait lorsqu'on revenait sur...
Virtual Boy.
Sur le Virtual Boy, voilà, de Gunpei Yokoi, c'est qu'effectivement, ce genre de technologie, finalement, font travailler, nous font loucher un peu. C'est les deux yeux qui doivent faire la mise au point elles-mêmes. Mmh. Et du coup, on travaille les nerfs optiques, que finalement, on a peu l'habitude de faire travailler. Et du coup, au fur et à mesure des semaines et des mois d'utilisation, les gens voient mieux. Peut-être que toi, comme moi,
on utilise bien
la 3DS, bientôt, on pourra enlever nos lunettes. En tout cas, chez Nintendo, chez les mecs qui concevaient le Virtual Boy, il y a des gens qui ont vu leur acuité visuelle sensiblement amélioré.
J'espère que ça ne va pas le non-succès du Virtual Boy.
J'espère pas.
Tout ce que je leur souhaite.
Je pense qu'ils vont sans doute sortir un bien-être des yeux, à mon avis, sur 3DS.
Ah, c'est sûr.
Qui sera adapté.
Je pense aussi, ce dont tu parles au départ, le petit potentiomètre pour régler, ça vient peut-être aussi de là. C'est que
je pense
moi,
que
à la fin, je
à mon avis, c'est une
3D,
histoire de sécurité pour être sûr d'avoir des normes européennes ou des choses comme ça, qu'on leur tombe pas sur le paletot.
Les enfants, voilà, c'est interdit aux enfants qui puissent.
On rappelle qu'il y a 15% des gens qui ne voient pas la 3D relief et donc qui ne pourront pas voir. 15%, c'est quand même pas négligeable.
C'est plus 5%, c'est 15%.
Je crois que c'est 15%.
Ça dépend du procédé en fait, de stéréoscopie que tu utilises.
Mais ce qui est marrant, moi j'ai trouvé que ce qui était hyper intéressant dans le fait de 3D, c'est que c'est de la 3D, mais comme c'est du jeu vidéo, il y a un effet particulier. Je l'ai surtout reconnu dans Mario Kart et dans le Metal Gear qui était montré. C'est que ton Metal Gear, enfin ton perso, c'était, t'avais l'impression que c'était une petite, un petit jouet. Et pareil pour ton cas, c'est un petit jouet qui sortait. Et le côté 3D qui n'est pas de la 3D avatar, machin, qui n'est pas de la 3D réaliste, mais la 3D jeu vidéo qui sort, moi ça m'a fait plaisir, ça a touché l'enfant qui est en moi. C'est le petit côté majorette ou machin, etc.
Petit et soldat plastique.
Ouais, petit soldat plastique, je trouve ça assez marrant. Quoi.
Et moi, ça ouvre plein de choses aussi quand tu vois le travail d'un mec comme Miyamoto sur la 3D, les jeux en 3D. Avec les efforts qui sont faits au niveau de level design, par exemple Super Mario Galaxy, d'utiliser plutôt des sphères de manière à ce que les gens puissent se retrouver facilement, ne fatiguent pas, etc. Ça ouvre tout un champ de travail pour eux qui risque d'être extrêmement bien exploité, et je suis vraiment très curieux de voir les premiers jeux de plateforme 3DS.
Mais alors justement Thierry, c'est un peu le sens de ma question, ça m'intéresserait de voir ce que vous allez en penser, mais Miyamoto lui-même l'a annoncé que pour ne pas sanctionner les gens qui justement annulerait l'effet 3D, la 3D ne rentrera pas vraiment en ligne de compte quant à l'élaboration du gameplay.
Je pense qu'il y aura des jeux qui l'utiliseront totalement, et si tu l'enlèves, voilà. C'est un peu comme le problème sur la Wii quand tu avais le Nunchuk ou pas. Je pense qu'il y a des jeux qui prendront le parti de dire il te faut Nunchuk, donc là, ce sera il te faut la 3D, et tu pourras moins y jouer si tu mets pas la 3D. Je pense que c'est un faux débat, en fait. C'est une question intéressante, mais je pense que y a des développeurs qui feront des jeux qui
utiliseront ça. Mais le problème, c'est que Nintendo doit valider derrière. Et si Nintendo a décidé que le jeu doit être jouable de bout en bout en 2D sans jamais activer la 3D,
ça c'est plus problématique. Par exemple, moi je vois mal comment il s'appelle ce Paper Mario que moi, j'adore. Je vois mal Paper Mario ne pas utiliser ce truc-là.
À ce moment-là, la question c'est est-ce que ça va rester du gimmick visuel, etc., ou vraiment pousser le gameplay. Mais quand tu prends ne serait-ce qu'un bête Star Fox avec un réticule qui va en profondeur dans l'écran, c'est tout de suite plus jouable. Et c'est, tu changes pas du tout le jeu, tu mets juste le réticule en profondeur, c'est tout de suite plus jouable.
Mais c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, moi, l'expérience de la 3DS, ça m'a fait prendre conscience que le jeu 3D pouvait être sympa. Et donc moi, à Noël, là, je suis en train de changer mon PC pour passer en 3D, à ce que j'avais jamais imaginé avant. Donc là, voilà, je vais avoir les petits, bon, là, les petites lunettes à la con.
Non, enfin, en même temps, t'es chez toi.
En même temps, je suis chez moi, tranquille, peinard. Mais voilà, c'est que mine de rien, je pense, vu mon expérience personnelle, je pense que cette 3D, ça va, du coup, les gens vont voir ce que c'est et ça va même leur donner envie peut-être de, même de télé 3D. Enfin, ça va populariser et c'est donner plus l'envie de la 3D.
D'autant qu'Apple risque de mettre une deuxième couche quelques mois après avec un nouvel iPhone. Hein. Ouais, non, excuse-moi.
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, tu, vous parliez tout à l'heure de jeux spécifiques qui utiliseront ce genre de gameplay. Et, et effectivement, je crois que le professeur Layton va, enfin sur 3DS, va utiliser justement la 3D à plein pour, bah, pour résoudre des énigmes particulières, etc. Quoi. Donc ça prouve qu'effectivement, bah, les gens vont vraiment utiliser ce système-là pour, bah, pour, faire, pour faire en sorte que le joueur soit pleinement de... dans le jeu avec cette technologie.
Ouais, je pense qu'en effet, ouais. sur un jeu, par exemple, c'est vrai, il suffit simplement qu'à un moment donné du jeu, le jeu te demande d'activer la 3D. Tu vois, il peut le 80% du jeu peut être conçu 2D, 3D. Et compatible 3D et nécessiter 20% de vrai 3D. Donc du coup, ça, je pense que ça peut passer. Je pense que le gameplay, les gameplays seront intéressants avec cette 3D.
Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu du, alors on va pas dire line-up parce qu'on connaît pas les dates exactes de chacun de ces jeux, mais enfin on va dire des jeux annoncés. Est-ce que vous trouvez pas que c'est extraordinairement gamer, à l'exception de du professeur Layton? On a du Street Fighter, on a du Metal Gear.
C'est simple,
on était
sur le 3 là. Bah, c'est à l'image de la conférence Nintendo.
Oui, totalement.
Extrêmement gamer. Les titres, c'était Kirby, Donkey Kong, une grosse démo de Zelda. C'est là autant les critiques il y a 2 ans, je crois.
C'était pas bien passé d'ailleurs.
Voilà, c'est genre Nintendo se désintéresse des gamers. Au final, ils veulent toucher uniquement la maman et la grand-mère.
Pas du tout.
Et donc,
plus maintenant.
ouais, ou moins en tout cas, puisqu'ils sortent toujours des Wii Party, etc.
C'est ça, je
mais
pense qu'ils vont.
Mais attends, Wii Party, c'est pas
seulement pour les grand-mères. Ça marche très bien avec des
Pas seulement. Ouais, c'est l'enrobage qui me déplaît, très roue de la fortune.
En fait, c'est maintenant, c'est, à mon avis, c'est qu'ils savent mieux gérer leur communication. C'est que sur un E3 qui est plus gamer et qui est suivi par les gamers, ils savent dire ben voilà, il y aura des jeux gamers. Mais je suis persuadé que durant l'année 2011, on va se retrouver aussi avec plein de jeux 3DS qui seront
bien sûr.
Et parfois, ce sera même pas, ça sera dit 3DS alors qu'en fait, ça pourrait fonctionner sur une DS aussi.
Oui, oui.
C'est
bien sûr, bien sûr.
Donc, vous y croyez à la 3DS en 2011 vous pensez?
Ouais.
Alors moi, et dès le début?
Alors moi, clairement, j'y crois. Maintenant, on connaît pas le prix.
Si.
Ah, ça. Alors enfin, pas officiellement, mais
on
ça a
connaît le prix japonais en tout cas, qui a déjà posé problème aux Japonais d'ailleurs, qui sont exprimés à ce sujet.
80% des Japonais le trouvent trop cher. Qui est l'équivalent de 220€.
Voilà. Mais et on imagine a priori.
Et chez nous, a priori, c'est 249, donc 250€.
C'est parti pour être ça. Après.
Si c'est 249€, je trouve que ça va encore. Mais c'est vrai que c'est quand
100
même...
euros de plus que la DS en son temps.
Voilà, mais c'est quand même cher pour 249€ quand on compare par rapport aux consoles de salon. Voilà, ça fait cher.
Il faut voir quel jeu sera avec.
Ça coûte combien un iPhone?
Ça dépend du modèle et de ton abonnement.
Ouais, c'est au moins ce prix-là.
Un iPhone, tu l'achètes pas juste pour.
Non, mais un iPod Touch, c'est 250€. Ouais. C'est le prix d'entrée de gamme des iPod Touch que Apple market comme aussi des consoles de jeux. C'est 250€. Donc, ça va être intéressant, mais le positionnement prix, à mon avis, va être décisif, quoi. Quitte à ce qu'il baisse après, quoi.
Mais ça l'est toujours, mais Nintendo baisse pas ses prix comme ça, hein, par contre.
Ouais, à voir. Donc,
tu pourras prendre des photos 3D avec la 3DS.
Les capteurs sont quand même à peu près les mêmes que ceux de la DS, donc ça te fait des photos de 3D.
Ça fait des photos de merde en 3D.
Mais ce qui est marrant par contre, c'est que la PSP, elle est totalement morte, quoi. Moi, c'est ce que je retiens déjà. On est milieu de l'année, on n'a pas cité un jeu PSP. Moi, je vois plus de gens jouer à des jeux PSP. Alors certes, il y a quelques titres. Il y a des jeux de qualité, mais souvent c'est des jeux, on va dire, si t'as une PS3, etc., t'as le grand frère, t'as le God of War qui est bon, t'as le Disgaea qui est bon, mais c'est toujours des licences adaptées. T'as pas une autre offre en fait dessus, quoi.
Alors à cette période de l'année, on parle de juin, il y a eu Metal Gear Solid Peace Walker, qui est quand même très grand jeu. Et c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup sur les minis, en téléchargement sur PSN, des petits jeux un peu plus obscurs entre guillemets, mais qui peuvent être vraiment très fun. Mais c'est vrai que sur les grandes licences, elles sont un
mais
peu.
Mais je pense que 2010, c'est l'échec de la PSP quand même. C'est aussi ça. C'est...
Bah, pas, en tous les cas, pas partout, hein, parce que Monster Hunter 3rd, c'est
ah,
pareil.
Ah non, non, mais par exemple, phénomène, ouais. Ouais, évidemment, il y a encore les titres qui marchent, mais tu vois, la PSP Go qui maintenant est fournie avec je sais plus combien de titres gratuits fournis avec. Enfin, c'est. C'est voilà, ils ont quand même un
ça sent la braderie de fin de vie.
Ça sent la braderie, ouais. Quoi. Ah bon. Ça sent la braderie. Et d'ailleurs, il y a certains analystes, bon, analystes, on sait ce que c'est, mais qui disent la PSP2 va être morte d'entrée de jeu.
Bah, c'est Pachter qui dit ça. Ouais. Voilà. Il l'annonce morte-née, effectivement. Mais...
Notre célèbre analyste.
Voilà.
Nous en reparlerons dans les perspectives de 2011, mais restons encore un petit peu en 2010. Pour conclure sur l'E3, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché agréablement ou plus
les
des petites déceptions?
Moi, c'était. Thierry. Je suis extrêmement fan du travail de Retro Studio. Donc, lorsqu'ils ont annoncé que c'était eux qui s'occupaient du nouveau Donkey. Moi, ça m'a fait un plaisir fou, quoi. J'étais comme un gamin, genre à la conférence de presse, avec un sourire jusqu'aux oreilles quand j'ai vu les images. Je suis tombé par terre. Donc, c'est un vrai bonheur, quoi,
ouais,
de voir ces titres revenir.
Fibre nostalgique, quoi.
Exactement. Ouais.
Toi, Ragal ?
Non, j'ai rien d'autre sur l'E3. J'ai rien d'autre à ajouter, en fait, de ce qu'on a dit. Moi, ça m'a pas. Si, c'était quand même un E3. Clairement, voilà, l'E3 est revenu dans la place, quoi.
Oui, oui.
Clairement, il est là. Oui. Ils ont appris de leurs erreurs et voilà, il est vraiment reparti. Donc ça, c'est ça. Bah,
ceci dit, Nintendo a quand même un peu volé le show avec la 3DS encore, et à mon avis, ça a dû encore faire grincer des dents comme à l'époque de l'annonce de la Wii. Hein, donc bon.
Ça risque d'être pire l'année prochaine. Mais ouais. Nous en reparlerons dans. Le podcast 2011. Et puis aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il y a eu du côté de Microsoft, et ça nous permet de glisser sur le mois de juillet, puisque c'est le 16 juillet 2010 que sortait la nouvelle Xbox 360, ou plus précisément un relooking. On l'appelle la Xbox 360 Slim, c'est pas véritablement son nom officiel, donc un peu plus légère, un peu plus fine, avec le Wi-Fi intégré directement, la fameuse prise Kinect Ready. Et ça a boosté un peu les ventes de la Xbox 360 qui, mine de rien, continue son petit bonhomme de chemin. Elle est partie certes en avance, mais enfin, au niveau mondial, elle est toujours deuxième derrière la Wii. La PS3 ne l'a toujours pas rattrapée.
Bah oui, bah moi, j'en suis la preuve, je l'ai achetée.
La Slim,
alors que j'avais une Xbox qui marchait encore bien. Hein. En fait, j'avais une première Xbox à Red Ring of Death, évidemment. Donc, elle est partie en réparation. Et en fait, moi, puis à un moment, elle était revenue. Enfin bref, elle était morte. Donc, je m'étais acheté après la Xbox normale en reprenant le disque dur de ma première Xbox.
Mmh, ouais.
Et là, en fait, moi, j'en étais arrivé à un point. Moi, c'est pas le Wi-Fi qui m'a fait changer. C'est
le silence.
Le silence. Ouais. La fibre écolo, un petit peu, quand tu regardais les machins. Mais aussi, surtout, le gros disque dur. C'est qu'aujourd'hui, comme on en parlait, moi, je télécharge de plus en plus les démos, les jeux, les Limbo, les Super Meat Boy, tout ce qui passe. Et mon disque dur qui faisait 6 ou 8 gigaoctets, il n'en pouvait plus, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai une Xbox à vendre.
Avec 6 pauvres gigas, si vous êtes intéressé.
Dans le forum de Gameblog, vous pouvez laisser un message adressé à Ragal et puis on fera la commission.
Mais c'est vrai que, c'est-à-dire que même moi qui, à la base, n'étais pas. J'avais aucune raison d'en changer, ou peut-être un plus gros disque dur, etc. Bah, j'ai passé le cap, quoi. Clairement. Donc, c'est assez marrant parce que aussi, là, ça faisait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elle est sortie,
oui.
La Xbox.
Oui.
5 ans avant, c'était un peu le milieu de vie, la fin de vie d'une console.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est le milieu de vie.
C'est ce que dit Microsoft, d'ailleurs.
Voilà, ouais. Mais ils ont totalement raison.
De 10 ans. À l'image de ce qu'a fait la PS2.
Et ce que disait sur la PS3 aussi, ce que disait Sony sur la PS3. Et à l'époque, moi, j'y croyais absolument pas, en me disant, ok, c'est du pipeau, 5 ans, machin. Et non, en fait, c'est.
Et même les éditeurs l'appellent de leur vœu. Hein, maintenant qu'ils ont leur moteur. Bah,
surtout
qui
les développeurs.
Finis, hein. Qui commencent à maîtriser, les développeurs, à maîtriser les jeux. Ils se disent, ouais, ne rebasculez pas tout, rechangez pas la roue à chaque fois.
Bah, d'où l'idée des add-ons, Kinect et Move, entre autres.
On va en reparler dans quelques instants. Thierry, toi, ce relooking, ce.
Ah, moi, le. Le relooking, oui, c'est bon, ça reste pas super beau, mais bon, c'est surtout le bruit. Je suis entièrement d'accord. Moi, t'as plus un aspirateur dans ton salon qui tourne sans arrêt, donc ça fait du bien aux oreilles. Donc,
Ils auraient pu, c'était peut-être pas le but, mais on sait qu'aujourd'hui ils essayent dans le salon de concurrencer un peu les box avec la VOD, etc., etc. Peut-être qu'ils auraient pu mettre le Blu-ray et qu'ils ont pas mis, alors que maintenant on l'a dans la Freebox, dans la future.
Ah ouais, mais bon. C'est pas pareil, Free.
Ouais, mais je pense qu'ils auraient pu mettre un lecteur Blu-ray. Parce que je sais pas à quel point le Blu-ray est vecteur d'achat pour le grand public. Mais je sais que
il y a une proportion certainement non négligeable de PS3 qui sont vendus pour ça.
Ouais, ouais.
Sans enlever un avantage concurrentiel à la PS3 en tout cas.
Oui, mais enfin d'un autre côté, ils auraient dû payer des royalties à Sony d'une certaine manière, etc. C'était peut-être pas très réalisable pour eux.
Ils n'avaient peut-être pas besoin, mais c'est vrai que le design, c'était juste du design refait.
Mais il y a un truc qui est vachement important dans la stratégie de Microsoft, c'est que les supports pour le film HD, eux, ils disent clairement ça ne nous intéresse pas, on veut imposer la VOD. Ouais. Ouais. Et de ce point de vue-là, par rapport justement à toutes les TV box qui existent là, le service de Microsoft est quand même très bien.
Ah, c'est largement meilleur que sur PS3, oui, ouais. Ouais, soyons clairs.
Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a plus de Ring of Death possible dessus, de Red Ring of Death. Et ça, je trouve ça marrant parce que c'est plus rouge. Il est vert. Donc voilà, donc doucement sur Internet, sur les forums, ça va doucement se calmer, il n'y aura plus de ROD. Mm.
Allez, on passe au mois d'août, c'était la Gamescom.
On a oublié Super Mario Galaxy 2.
Ah là là, le jeu de l'année.
On a essayé quand même d'y aller.
Je fais un détour par l'Allemagne, subrepticement. Super Mario Galaxy 2.
Donc on regarde sur 2010, le titre numéro 1 sur Metacritic, c'est qui?
C'est Super Mario Galaxy 2.
Normal, donc il fait aussi partie du top 10, genre du Times, enfin il est partout. C'est la première fois que Nintendo sort une suite réelle, genre un de ses jeux sur une console de même génération.
Moi je me rappelle que ça m'avait un peu refroidi justement, j'étais déçu, je me disais, ah merde, Nintendo qui à chaque fois essayait quelque chose, là c'est une suite.
C'est pas grave, le premier moi je l'avais retourné, etc. J'attendais qu'une suite qui ressorte ce gameplay parfait, ce plaisir de contrôler un personnage, cette inventivité de tous les instants dans le level design. Chaque niveau est un bonheur, le retour de Yoshi, c'est juste une grosse leçon une nouvelle fois. Et vraiment, Mario, le jeu vidéo ne serait pas ce que c'est aujourd'hui.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dit, bon, cette fois-ci, nous, on s'en fout de l'histoire, machin, etc. C'est genre, voilà le gameplay, voilà ce qu'on sait faire. Et c'est marrant. Et moi, j'aime bien parce que ce qui me fait chier quand même dans les jeux Nintendo, moi, clairement, à chaque fois, c'est les 20 premières minutes. Le dernier Zelda m'avait saoulé, putain. Non, c'est chiant, tu vois. T'as envie d'avoir un bouton, ok, je suis un adulte. Vas-y, zappe-moi les 20 premières minutes. Et non, mais c'est vrai que les débuts de jeu sont souvent galères. Et ça, c'était bien aussi, quoi.
Je sais pas si vous êtes amateur de jeux de plateforme ou pas.
Mais non, moi justement, moi je voulais en parler aussi parce que moi j'aime pas trop les Mario en général, même pas vraiment. Je suis un peu comme un régal. Enfin, je sais pas, le New Super Mario Bros. Pour moi, c'est injouable, mais vraiment.
C'est dur. Hein.
Surtout à deux, je comprends rien, voilà. mais autant les Mario Galaxy qui sont complètement en 3D, je les trouve super bien foutus, quoi. Mais vraiment, c'est les seuls vrais Mario. Avec le Mario,
là, c'est vraiment le travail de Miyamoto
sur Mario Bros World de la Super Nintendo que j'ai vraiment adoré, quoi, vraiment. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est extrêmement bien réussi.
Et pour le coup, c'est l'année pour moi du jeu de plateforme, quoi. Le grand retour du jeu de plateforme avec une tripotée de titres, sublime.
Hyper différent. Je sais pas, peut-être qu'on reparlera de Super Meat Boy.
Bien sûr qu'on va reparler de Super Meat Boy.
Ouais. Il touche toutes les plateformes différentes voilà.
Et c'est amusant parce que je me rappelle d'un podcast qu'on avait fait. C'était, je crois, titré un peu sur est-ce que le jeu, la plateforme est-elle morte. Et on trouvait que c'était un genre finalement.
Et juste avant, on avait fait est-ce que le jeu de combat était mort et paf, voilà.
Et les années d'après, bon, en fait, les développeurs nous écoute et oh merde, Gameblog trouve qu'il n'y a plus de jeux de plateforme, bah on va leur en foutre plein, voilà.
Mais c'est vrai.
Donc est-ce que le RPG japonais est-il mort? Putain, on va avoir des bons RPG l'année prochaine, ça va être bien. Ok, en tout cas oui, effectivement c'est un vrai jeu incontournable en 2010. Au mois d'août, donc détour par la Gamescom, je peux le refaire toujours pareil, du 18 au 22 août 2010, une Gamescom l'année dernière qui était hallucinante, plein d'annonces dans tous les sens. Cette année, c'était quand
plus
même
discret.
Plus discret.
Ouais,
hein.
ouais, c'est vrai, il n'y a pas eu autant de conférences et d'événements presse à proprement parler pour les constructeurs pour communiquer sur des nouvelles choses. Il y a eu énormément de redites par rapport au E3, mais ça c'était aussi un petit peu déjà le cas l'année dernière, sauf qu'on a plus joué au jeu, et ça a permis aussi de dégager certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues autant à l'E3. Par exemple, moi j'avais pas vu The Witcher 2 à l'E3, je l'ai redécouvert et découvert vraiment pleinement à la Gamescom.
C'est ça, c'est que la Gamescom, c'est vraiment, contrairement à l'E3 qui est plus orienté professionnel, la Gamescom c'est un salon grand public. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout le public qui vient voir les jeux de fin d'année. Et moi ce que j'ai retenu sur la Gamescom, c'est que on est sur le marché allemand et donc ça marchait très PC. Et donc du coup, on a beaucoup plus vu des jeux PC qu'on voyait moins à l'E3, enfin les jeux PC de qualité ont été beaucoup plus facilement mis en avant, quoi.
Il y avait toute une aile juste pour les MMO et les trucs comme ça.
Et on rappelle que la Gamescom, c'est aujourd'hui le plus gros salon en termes d'affluence du salon de jeux vidéo au monde. C'est plus de 220 000 personnes qui se massent dans les coursifs du
Kölnmesse.
Voilà.
Mais non, c'est vrai que c'est énorme. Ouais.
Et c'était aussi l'occasion quand même pour la première fois de découvrir BioShock Infinite.
Oui.
Dont nous reparlerons en 2011, donc nous n'en parlerons pas ici, mais
il a l'air
2012
assez...
ou 2012 ouais.
Ah,
ouais.
Alors
2011
on est sûr, n'est pas sûr, on verra. En tout cas c'est un jeu qui sent bon. Allez, on continue la grande litanie des grands shows, puisque en septembre, du 16 au 19 septembre 2010, se tenait le Tokyo Game Show. L'année dernière, il y avait tous ces propos sur le jeu vidéo japonais mort, asséné par un Keiji Inafune au sommet de sa forme. Effectivement, on l'a vu, hein, les développeurs japonais sur les plateformes HD, sur cette génération quand même, ont clairement des difficultés à sortir, à retrouver l'éclat d'antan. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous messieurs, de ce TGS 2010 ?
Alors moi, j'ai un rapport personnel particulier au TGS. Moi, je trouve que c'est un peu de la merde, le TGS. C'est-à-dire que j'en ai fait deux. C'est vraiment particulier. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un prisme déformant de nous, parce que c'est le Japon. Et parce qu'on le tourne comme un gros salon. Mais quand on va sur place, quand on a fait tous les salons, il est tout petit. En termes de
tout est plus petit chez les Japonais.
Surface. En termes de surface, c'est plus petit. Il y a moins de choses qui se passent. Cette année, moi, j'ai quand même retenu, et ça m'a fait plaisir, de quand même quelque chose, notamment les vrais jeux annoncés sur Kinect. Mais c'est vrai que moi, le TGS, dans l'absolu, c'est plus l'occasion de parler du marché japonais. Parce que aussi le TGS, comme celui en Allemagne là,
c'est
pour le public de l'endroit. Et moi, le TGS, j'ai toujours trouvé, mais tous, hein, que en fait, on a le prisme déformant du c'est le Japon, c'est la patrie originale du jeu vidéo, donc on y accorde beaucoup d'importance, mais en tant que tel, le salon quand il va.
Voilà, mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même marrant de voir que Microsoft a réservé beaucoup d'annonces gamers sur Kinect pour ce marché-là.
C'est super intéressant.
Qui est un marché où ils sont pas forts, où Kinect aura beaucoup de mal à s'imposer vu la taille des appartements japonais.
Déjà, il a déjà du mal à s'imposer.
Oui, mais enfin, il y avait quand même 130 personnes
qui faisaient la queue.
Ouais. 130.
Waouh. Enfin, bref.
mais c'est vrai que moi, ce que j'ai retenu du Tokyo Game Show pour moi, c'est les jeux Kinect marrants, notamment le style Battalion, Tekki, ouais. Je peux vous rappeler.
Mais justement, là, pour le coup, moi, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Parce que mais pour moi, le fun, marrant, c'était, ouais. C'était d'avoir la grosse manette, quoi.
Mais ça peut être marrant. Ça peut être
sans
marrant.
Manette.
Là, il faudra faire.
Mais si ça peut être. Je sais pas comment. Enfin, moi, après, voilà, j'ai mon fantasme de joueur. Comme évidemment, quand on t'annonce Kinect.
Ah, bah ça fait marcher la machine à rêve, hein, oui.
Tu dis, attends, là, je sélectionne le truc, vidéo, tac, 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 à voir comment ça va être fait. Et
est-ce
puis, il y a aussi le.
Tu avais fait Metroid Prime le 3, le Corruption sur Wii.
Avec en mode
parce que t'as une scène comme ça en fait où t'es dans le vaisseau spatial et donc avec ta Wiimote tu vas activer des trucs,
ouais, tu peux tourner les choses,
voilà,
etc.
Tu regardes un peu ton cockpit, etc.
Voilà, c'est assez intéressant.
Si ils font ça avec Steel Battalion, avec le Kinect, ça peut être intéressant où tu te balades, etc.
Parce que justement le gameplay de Steel Battalion, justement, c'est un gameplay très lent, donc t'as peut-être le temps, tu vois, de bidouiller.
Kinect, t'as le temps de voir ce que tu fais.
Ouais, exactement. C'est que t'as le temps de préparer tes choses et t'es pas dans l'action pure, quoi.
Et toi, Thierry ?
Sur le TGS, moi, c'est Ni no Kuni. Ça fait très longtemps qu'on attend. Le studio Ghibli avait déjà participé en fait à des petites productions assez obscures. Et là, c'est un gros titre avec un gros développeur derrière, Level 5.
C'est même deux.
Les mecs, ils en sortent deux en plus.
Un donc sur là, DS avec le Grimoire.
Bonheur sur DS. Et sur PS3, ça va être un vrai dessin animé interactif.
Sur PS3, de voir ça, quoi. Tu le regardes, ton cœur, ils font. C'est un chamallow, quoi. Non, c'est exactement ça, ouais.
Après, moi, je suis. Alors, visuellement et tout, sur la patine, c'est génial. L'épisode DS limite m'attire plus parce que ce coup du grimoire, qui est colossal, hein, qui fait genre plus de 300 pages, avec énormément de choses à voir, des manipulations pour faire des sorts magiques, etc. Celui sur PS3 a l'air plus traditionnel dans son approche. Et j'ai pas toujours été convaincu des approches RPG de Level 5, moi. Oui, je sais, Thierry, me regarde pas avec ses yeux.
Hein. Ah,
je sais,
technique.
Mais pas toujours, on va dire. Okay. J'ai toujours parfois trouvé que c'était un peu gnangnan et tout.
Donc, au niveau du scénario, là,
je sais.
Les blancs.
C'est très difficile là-dessus.
Donc ensuite, ils ont fait Dragon Quest 8, Dragon Quest 9. En effet, c'est pas le scénario qui ressort, qui marque, mais en termes de game system derrière, en termes de réalisation, en termes de consistance la durée, c'est les mecs, c'est juste des dieux. Donc du coup, et puis ils ont prouvé quand même avec la série des Letton, qui était capable aussi d'écrire des histoires sympathiques. Avec des personnages qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner.
Par contre, c'est dommage, mais il est tombé en même temps que Monster Hunter The Third. Donc au niveau vente, il a dû en pâtir quand même pas mal, quoi.
La version DS, je parle.
Ah ouais, qui est sortie en effet au Japon.
C'est j'ai fait 250 000 la première semaine, il me semble.
Ok. Okay.
Donc, pendant que Monster Hunter faisait encore 600 000 des poussières pour la deuxième semaine.
Ouais, c'est bizarre, ça. Ils auraient dû choisir une autre date de lancement.
Mais peut-être, ouais. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que justement, il pourra se vendre un peu plus sur le long terme. Qu'avez-vous pensé quand même, puisque là, on parlait aussi de la crise japonaise, etc., du fait que Capcom, très clairement, sous-traite maintenant tous ces gros jeux, le nouveau DMC, Devil May Cry, qui va être fait par Ninja Theory, donc des occidentaux, les Dead Rising qui sont faits maintenant au Canada, en gros. Mais Capcom, messieurs, faites-vous encore des jeux au Japon?
Ça fait un peu peur dans l'absolu, puisqu'on se dit une nouvelle fois que ce qu'on aime dans le jeu japonais, c'est ce gameplay très particulier, ce savoir-faire qui est un peu
aussi
unique.
Leur façon de créer des univers
aussi tout à fait, et donc mais des univers un peu barrés qui du coup sont très japonais et ont du mal à s'exporter, même si moi personnellement je peux être touché. Malheureusement, je crois que le grand public, genre,
tu prends un truc comme Miyazaki et justement Ghibli dont on parlait,
c'est l'exception,
tout le monde.
C'est l'exception. Donc oui. Là je te parle vraiment de jeux vidéo, tu as mis à part Mario, genre ok, Mario, Zelda, il y en a d'autres, ils en font d'autres, mais dès qu'on touche là à la next gen,
même les Final Fantasy,
ils ont plus de mal. Et les Final Fantasy, ils ont galéré quand même pour justement, en passant, il y a tellement de choses à faire en HD,
mais je veux dire les univers des Final Fantasy qui sont toujours qui sont changés à chaque opus, même s'il y a beaucoup de choses qui reviennent, sont extrêmement travaillés, et c'est c'est assez typiquement japonais, mais c'est quand même les seuls à faire un steampunk de cette qualité en jeu vidéo.
Mais peut-être
du coup ça se perdre, ça, s'ils sous-traitent avec l'Occident. Ninja Theory, jusqu'à maintenant,
si
ils m'ont pas convaincu.
Perdre,
hein.
C'est sûr.
Enslaved était intéressant, mais le gameplay était pas tout à fait là.
Mais l'univers était intéressant quand même.
L'univers était intéressant.
Peut-être qu'on voit. Je te coupe, parce que je suis comme ça.
Eh bien, écoute, je vais reprendre la parole dans ce cas, puisque tu es comme ça.
Je peux pas lutter.
Alors, juste, je te la redonne juste après. Mais bon, on a vu des expériences justement entre des Japonais qui travaillaient avec des Occidentaux. Je pense à Nintendo par exemple avec Rare.
Nintendo, ils sont forts.
Nintendo avec Retro Studio. Et on voit que peut-être est Rare maintenant qui n'est plus sous la houlette de Nintendo, fait des jeux quand même globalement d'une moins bonne qualité.
Je sais pas comment ça se passe avec Capcom. Est-ce qu'ils accompagnent autant? Je sais que par exemple pour un Donkey Kong, il y avait des Japonais qui étaient tout le temps là. Il y a les équipes japonaises de Nintendo sans arrêt.
On était
sur
place au Tokyo Game Show. Clairement, ils ont annoncé que vraiment les équipes de production, le producteur, etc. C'était un jeu qui était fait avec la production américaine, avec la production japonaise.
C'était
testé
au Japon.
Peut-être que ouais. Tester ça, je sais pas, mais j'imagine que oui. Mais peut-être que pour une fois, justement, ça va être la patine visuelle, le style et réussir, parce que ça, ils en ont beaucoup parlé, à saisir l'air du temps que c'est bien faire Ninja Theory, plus la patine de gameplay, plus la japonaise.
On aurait parce que.
Et là, je te relaisse la parole.
Voilà, de toute façon, merci. je pense qu'en fait, on voit aussi, on voit un bout de l'iceberg par un angle différent. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec votre analyse.
Mais t'as envie de dire oui, mais non.
Mais je vais pas le dire. Voilà. En fait, depuis quelques années, quand même, on voit que les studios ou les éditeurs investissent massivement le marché occidental. C'est-à-dire que Sega a racheté Sports Interactive, donc qui font les Football Manager. Ouais. Ils ont racheté Creative Assembly, qui fait les Shogun, Total War, les machins, etc. Donc, et même Square Enix, quand même assez intéressant, s'est mis, voilà, après Eidos, ils ont fait aussi Supreme Commander 2. Des jeux très occidentaux, très PC, etc. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette année du développement de jeux, il y a quand même eu depuis quelques années des vraies politiques d'investissement, ou en tout cas de rachat de studios aussi occidentaux. Donc c'est pas que cette année, c'est-à-dire qu'en fait ils ont déjà depuis quelques années
amorcé ça
et pris aussi des parts dans le marché occidental, notamment en Europe avec Sega entre autres.
Mais justement, tu parlais en l'occurrence de Capcom. Ce qu'on voit là cette année, c'est pour moi la concrétisation de ce que faisait et ce qu'a poussé Keiji Inafune juste avant de se barrer.
Oui.
Parce que c'est ce qu'il a toujours dit, lui, ça a été un des premiers et des plus véhéments surtout à s'exprimer pas contre le développement japonais, mais en disant il faut qu'on se réveille, là c'est plus possible, on est mort, etc. Et il a lancé tout ça, c'est lui qui a lancé tout ça, qui a créé des Lost Planet, etc., des choses beaucoup plus occidentales dans leur approche, même si elles étaient encore développées au Japon. Ça a pas marché à tous les coups, mais en tous les cas c'est plutôt payant techniquement pour Capcom, qui bénéficie quand même maintenant d'une avance assez confortable avec ses moteurs notamment et sa plateforme technologique.
On sait que du côté d'Hideo Kojima chez Konami, c'est pareil, ils ont une volonté d'occidentaliser leurs propres équipes, de prendre là où c'est bon. On sait qu'ils se sont énormément rapprochés des équipes de Assassin's Creed, de chez Ubisoft.
Ouais, et là encore, ça date pas d'hier, il nous en parlait il y a encore 2 ans.
Être
Mister
le capitaine
Kojima,
Kirk d'une équipe internationale de son Enterprise.
Exactement.
Donc, y a un vrai. Ça y est, ils ont compris. ils ouvrent les yeux et c'est en train de se concrétiser par les faits. Maintenant, on va voir.
Mais je pense que c'est partout. C'est pas que les Japonais qui s'orientent vers
c'est une mondialisation.
C'est une mondialisation créative. Mmh. Moi, encore récemment, je parlais à un directeur de petit studio qui fait des jeux mobiles. Aujourd'hui, il bosse avec toute l'Europe et le monde entier. En fait, il a ces développeurs-là. Mais on l'a vu même déjà avec Ubisoft, qui avait des studios en Chine, des studios au Maroc, des studios au Canada, etc.
À Budapest aussi.
Voilà, Budapest. Ouais. Maintenant, en fait, je pense qu'on a une mondialisation totale des trucs. C'est pas que le Japon qui va vers l'Occident.
Avec une grosse concentration au Canada, merci les subventions quand même. Hein. Donc, bon.
Mais ils ont assuré là-dessus. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de doute.
En gros, c'est qu'aujourd'hui, un jeu, ça coûte tellement cher à faire qu'il faut absolument que ça marche partout.
Puis les Japonais, ils ont toujours été très très conservateurs, donc pour eux, bouger justement, faire évoluer les choses là-bas, ça prend à mon avis beaucoup plus de temps, quoi.
Oui, il y a une culture particulière qui fait que l'entente n'est pas toujours évidente, quoi.
Il y a quand même une barrière de la langue qui est énorme, voilà.
Oui, complètement.
Et ça, il ne faut pas non plus le négliger, c'est que des Japonais qui savent correctement parler anglais, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et des Occidentaux qui savent parler japonais, il n'y en a juste quasiment pas. Donc,
ne serait-ce que pour coder, hein, on a eu beaucoup de discussions avec des développeurs japonais quand on était là-bas. Quand ils reçoivent les docs, parce qu'il y a du middleware commun quand même, qui
bien sûr,
essentiellement à 99% occidental, donc écrit en anglais sur des documentations qui font 600 pages à ce. Voilà. Et ben il leur faut des mois juste à le traduire, quoi, et à comprendre. Et quand tous les développeurs, on le sait, ont des forums internes entre développeurs où ils échangent des astuces pour bien coder, pour optimiser la PS3, la Xbox, etc. Eux, ils y ont accès, mais ils comprennent moins bien. Et du coup, ça ralentit tout ça, quoi. En tout cas, on verra bien, mais c'est vrai que l'année 2010, avec des géants comme par exemple Gran Turismo 5, typiquement japonais, avec toutes les inégalités, les imperfections qu'on lui a connues, et sa grande qualité aussi, bien sûr, ou comme on parlait du Tokyo Game Show, Last Guardian, c'est vraiment des développements japonais typiques qui mettent des années et des années, et on a du mal à en voir le bout. On espère que Last Guardian sera fini en 2011. On l'espère. C'était un peu une des douches froides de ce Tokyo Game Show quand même. On l'attendait tous, machin, et puis.
Surtout qu'on devait voir des choses que finalement on n'a pas vues.
On n'a pas vu. Et puis on a senti une sale ambiance en plus dans les équipes de football.
Pas très rassurant.
Non, pas très rassurant. Allez, on continue en septembre avec un événement majeur. Hein, c'est la sortie du PlayStation Move. Mais on va se le garder, même si c'est en septembre, pour le mettre en relation avec Kinect. Donc on va vite glisser sur octobre avec un événement en France cette fois-ci, le Paris Games Week, première édition, qui se tenait du 27 au 30 octobre dernier. C'était à la porte de Versailles. Alors, il y avait bien évidemment d'autres festivals du jeu vidéo, par exemple, les années précédentes en France, hein, qui avaient des très beaux succès. Le festival du jeu vidéo 2009 avait franchement été de qualité, énormément de jeux, énormément de joueurs, sauf que le SEL, donc le syndicat
des éditeurs de logiciels,
a imposé son truc. Ouais.
Ah, c'est dit,
c'était plutôt violent.
Ouais. Voilà, et effectivement, tu l'as dit, hein, de manière très violente, ce qui fait que ça a complètement vidé le festival du jeu vidéo 2010, qui malheureusement a connu un beau succès parce que les gens sont revenus en croyant, mais ça a vraiment déplu, c'était très déceptif, et il risque de ne pas en avoir l'année prochaine. 120 000 personnes, c'est ce qu'annoncent les organisateurs pour ces quelques jours du Paris Games Week. Ça a été une belle fête populaire autour du jeu vidéo, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, vu de l'intérieur et vu de l'industrie, il y a eu d'autres sons de cloche. On a parlé
déjà sur les 120 000, on peut se poser des questions.
Exactement.
Sur, en effet, l'objectif, c'était d'avoir plus de 100 000 spectateurs. Donc, ils ont fait en sorte qu'ils en aient plus.
Voilà.
Donc, voilà, mais.
Quitte à donner des chiffres, hop là.
J'y étais, genre, pas mal de temps. J'ai pas vu autant de monde que ça. Mm-hmm. Je crois que dimanche, c'était relativement plein.
C'est parce
il y a une belle soirée de
lancement. Comme la CGT.
Ouais. 100 000, voilà, c'est bon. Alors, et puis, moi qui vraiment y ai passé la semaine et j'ai pu discuter avec des organisateurs, des gens qui étaient là justement pour faire la sécurité ou quoi que ce soit, dès le deuxième soir, mais ouvertement, les chiffres vont être gonflés. Quand vous entendez ça, quand même, voilà. Néanmoins, au-delà de ça, c'était un beau rassemblement. Tous les jeux phares de la fin d'année et certains de 2011 étaient là. Et ça, quand même, pour le grand public, pour les joueurs, c'était une belle fête.
Complètement. Moi, un truc, c'était les stands étaient un peu, pour moi, genre compressés les uns sur les autres. T'avais tout un espace derrière qui a pas été exploité. Donc il y a comme ça des logiques de logistique, genre je suis pas tout à fait.
Peut-être,
Peut-être aussi, parce qu'il me semble que de toute façon, genre tous les éditeurs ont dû payer genre très cher pour y être, qu'ils étaient un peu obligés d'y être. Et donc du coup, bah peut-être que la taille du stand à cause de ça.
C'est pas pour faire grosse influence aussi, ça, justement, visuellement. C'est tout le monde a gluté.
C'est vrai, visuellement, automatiquement, ça aussi, ça sert. Et
comme les allées qui étaient petites aussi.
Ouais, c'est vrai. Et comme tu le disais juste avant le débat, en fait, c'était un peu aussi le salon de Sony, donc avec un PlayStation City qui était hallucinant, c'était énorme.
C'était combien de mètres carrés déjà ?
Mais ça c'est
500 mètres carrés.
Ça, on peut le dire, c'est du lobbying, clairement. Ah, oui, oui. Enfin, c'est bon, on sait que le CEL a fait son lobby interne pour justement que tous ses adhérents viennent sur ce salon-là et pas sur l'autre, donc interdiction d'aller sur l'autre. Et aussi, le président de Sony France, c'est le président du CEL.
Georges Fornay, oui. Voilà. Et le président du CEL.
Donc ça, il a peut-être...
Il y a des passerelles, quoi.
Il y a des passerelles, ouais.
Mais c'est clair que même, sans citer de nom, hein, y a beaucoup d'éditeurs qui parlaient d'un PlayStation Games Week plutôt qu'un Paris Games Week. Et effectivement, alors comme dans tout grand salon, il y a une scène centrale sur lesquelles, eh bien, à rotation rapide, toutes les demi-heures, vous avez présentation de X jeu pour faire la fête et rassembler du public. Bon, alors là, la scène centrale, c'était celle du PlayStation City, hein, très clairement. En revanche, la scène centrale, elle, était délestée sur un sombre coin, pas très bien foutu. Et ça, clairement, je pense que si, et il y aura une deuxième édition, puisque ça a été couronné de succès, hein, soyons clairs. J'espère qu'il y aura des petits raménagements pour que ça sente moins
C'était en tout
l'hégémonie
cas, en tout cas, c'était une édition correcte sur laquelle construire pour l'avenir. En tout
exactement.
Cas, c'était pas un échec total.
Non. Enfin, c'est vrai que quand tu compares ça à la Gamescom, ça fait tiep quand même. Non, mais objectivement.
Il y a un truc qui m'a fait plaisir, moi, c'est de voir par exemple sur le stand Nintendo. Mm-hmm. Donc, tu avais des espaces un petit peu Wii Party avec. Oui. Ils reproduisaient des salons avec des canapés, etc. Mm-hmm. Tu pouvais jouer à Wii Party. City, hein. Et puis à côté, tu avais un espace qui était entre guillemets un peu plus gamer avec Donkey Kong Country Returns qui était jouable. Et tu voyais, moi,
j'ai vu Zelda aussi.
Et j'ai vu, ouais, il y avait Zelda également qui était présenté. Et il y avait quasiment personne, moi, au moment où j'y étais, sur les canapés pour jouer à Wii Party. Par contre, les gens faisaient la queue pour jouer à Donkey. Et là, je me dis, le public de Spy Games Week était assez gamer. Et ça fait plaisir.
Ah, mais c'est une certitude. Alors ça,
mais t'as vu la
main d'avoir
vu la famille. Il y avait toute la famille.
Ils étaient gamers.
La pub Donkey Kong à la télé, tu l'as vu?
Elle est pas mal, ouais, avec
le papa
le gamin,
qui a dit, c'est un jeu, c'est la suite d'un jeu qui est sorti il y a 15 ans.
Moi, j'y jouais avec un gamin, et paf, le gamin prend la manette. Non, c'est carrément bien.
Donc, bon.
Je trouve que Ragal a bien résumé. C'est un beau salon, mais qui permettra de construire sur l'avenir quelque chose de peut-être un peu plus ambitieux encore, et surtout un petit peu plus homogène, un peu moins centrique.
Ça serait bien qu'il y ait plus de jeux PC, de jeux indés, mine de rien, mais bon.
Ouais. C'est pas parti pour, hein. Là, non, justement, c'est vraiment le gros show des gros éditeurs, des gens qui payent. Ouais. Donc du coup, le petit éditeur, le petit développeur, il n'aura pas sa place.
C'est peut-être là où le festival de jeux vidéo a encore
une carte à jouer. Carte cette année, ils ont aussi joué la carte des formations aussi, parce qu'il y avait des écoles qui ont. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo en tant qu'industrie, pour pouvoir peut-être y travailler plus tard, etc., c'était nettement plus intéressant d'aller au FJV que d'aller au Paris Games Week.
Mais on tend vers une intégration en fait de tous ces salons, puisqu'on sait aussi que ça a été la mort du Micromania Game Show, hein.
Oui.
Parce que le Micromania Game Show, qui avait un salon avant, en fait a été absorbé et n'a plus eu qu'une journée dédié à l'intérieur du Paris Games Week. C'était d'ailleurs assez drôle, parce que du coup il y avait un stand pendant toute la semaine du Paris Games Week de la FNAC qui a dû plier bagages et complètement défaire, et je l'ai vécu en temps réel, dévisser tout le stand FNAC pour qu'il n'y en ait plus du tout sur quand même des centaines de mètres carrés, pour que dès le lendemain ça devienne le Micromania Game Show. C'était fantastique, les deux bien évidemment s'appréciant plus que modérément. Allez, on va passer à la fin de l'année 2010 avec, en septembre, je vous le disais, hein, 15 septembre, sortie du PlayStation Move, et 10 novembre, la sortie de Kinect. C'est donc l'affrontement, la réponse de Sony et Microsoft à Nintendo. 5 ans plus tard, hein, quand même, hein, il aura fallu du temps avant de rentrer dans la guerre des motion controllers, jouer sans manette. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Quel est pour vous, s'il y en a un gagnant, un vainqueur dans cette lutte, en tout cas en cette fin de
l'aspiration. Bravo, quel enthousiasme.
Vas-y.
Pour le coup, moi, ça m'a pas passionné, hein. C'est tu vois, si je devais parler genre fin d'année, je me focaliserais pas du tout sur le Kinect et le PS Move pour parler vraiment d'autres jeux avec des manettes classiques qui étaient très très bons. Mais là, en l'occurrence, genre sur ces avec ces nouveaux périphériques, ils sont intéressants. On pourra faire sans doute plein de trucs vraiment top avec, mais là, on n'a pas les logiciels, quoi. Il y a rien au lancement, quoi.
Moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'autour de moi, justement, mon entourage qui n'est pas jeux vidéo, là tout d'un coup m'a posé la question, m'a dit c'est ça que j'ai retenu, c'est quand même, ça a quand même créé, alors que pourtant il y a eu la Wii avant, qui est quand même le précurseur dans ce domaine là mon entourage non jeux vidéo m'a quand même posé des questions, m'a dit est-ce que je prends le Move ou est-ce que je prends le Kinect, attends, le Move c'est quand même mieux, machin, enfin tu vois, il y avait un vrai intérêt des gens. Ils ont pas encore tous
est-ce
passé
qu'ils ont
le cap.
La Wii, ces gens,
ils ont tous passé le cap, certains oui, d'autres non. Mais par exemple, il y en a que il y a des couples, moi je vois autour de moi des couples dont le garçon joue à la PS3, et là elle s'est dit, là la nana a dit bah, tiens, on va acheter le Move
pour
moi,
essayer de jouer
pour moi aussi, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc je pense qu'il y a quand même des même si nous on n'est pas directement touché pour l'instant, il y a quand même des gens qui sont clairement visés par ça. Moi après, ce que je retiens, c'est quand même le prix, quoi. Ouais. C'est que ouais. c'est
le billet d'entrée est très
cher.
Cher,
quoi. Alors,
les contraintes aussi, parce que bon, une nouvelle fois, le Kinect nécessite un espace genre démesuré, genre pour la plupart des appartements parisiens, par exemple.
Il faut compter 3 mètres devant sa télé pour être correct. Voilà, pas 1m80 comme ce qui est annoncé.
Donc ouais. du coup, chez moi, je peux pas y jouer. Enfin, c'est assez terrible de me dire, genre, à cause de mon appartement, de ma taille, de la taille de mon appartement, je peux pas jouer au Kinect.
Je maintiens. Je vais demander à se loger, etc. D'avoir d'habitude, il y a des gens bien situés, bien touche Kinect crédit. Mon appart est-il Kinect crédit? C'est un avantage, tu vois. Tu fais, oh putain, cet appart qui est Kinect crédit. C'est bon, je peux y jouer. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas, n'a pas cette chance. Il y a beaucoup autour de nous qui aimeraient pouvoir y jouer. Bah, c'est pas possible.
Mon régal n'est pas dans cette situation.
Mais... non, moi, oui.
Enfin, la situation inversée.
je peux pas non plus jouer au Kinect parce que je joue avec un vidéoprojecteur. Donc mes consoles. Moi,
mais c'est pas grave, tu vas au troisième étage.
Sont derrière et,
voilà. Tu t'installes un petit truc juste pour Kinect.
Exactement, je descends. Mais non, moi ce que j'ai. Mais bizarrement, moi personnellement, je les ai pas. J'ai pas acheté le Move, j'ai pas acheté Kinect. Pour l'instant, j'ai juste joué.
Parce qu'il y a pas de jeu qui te tente, en fait, c'est ça?
Il y a quelques jeux qui m'auraient tenté, mais par exemple, prenons Ruse.
Ouais, ouais.
Ruse, moi, j'y joue sur PC, donc STR un peu original. Ouais. C'est vrai qu'avec la manette, ça pourrait être marrant quand t'as un grand écran, t'es vraiment un général. Hein. T'es là, tu fais alors mes unités vont là. Donc il y a quand même quelques jeux qui peuvent m'intéresser, mais pour l'instant, voilà, il n'y en a pas encore assez pour que je passe le cap. Parce que c'est cher, putain, c'est 150 euros la Kinect.
C'est cher, c'est... ce n'est pas vendu avec
il
les machines.
Il a dit la Kinect.
La Kinect.
comme la Wii Fit. Je sens un nombre de personnes, comme pour Wii Fit, qui vont acheter le pack Kinect, le ramener à la maison et faire bon, alors, la prise, je la mets sur la télé, ça marche comment, vas-y. Il manque une console, monsieur. Enfin bon, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est, il faut occuper le terrain, il faut montrer aussi aux gens, on est dans le coup, regardez, on sait le faire. En même temps, Sony et Microsoft vont apprendre pour que la génération suivante de machines, direct dans la boîte, parce que ça a été la force de Nintendo, c'est que c'est dans toutes les Wii, vous avez une Wiimote, un Nunchuk, et donc tout le monde peut développer pour ça. Alors que là, les gens qui vont développer sur Kinect ou sur PlayStation Move, entre guillemets, ils savent que c'est quasiment à perte. S'ils ne sont pas subventionnés par Sony ou Microsoft, s'ils arrivent à toucher 10% de la base installée des Kinect, des gens Kinect ou des gens avec un PlayStation Move, c'est peanuts.
Ouais, sauf que s'ils font un... C'est un peu comme sur le Apple Store, à mon avis, c'est que s'ils font un ou deux jeux bien qu'ils utilisent bien le truc, alors que derrière, il n'y a pas de concurrent. Enfin, c'est quand même bien vendu. Hein. J'ai plus les chiffres en tête.
Ça, c'est bien vendu.
Oui, c'est bien vendu.
Sony annonce, alors à date d'enregistrement de ce podcast, c'est-à-dire mi-décembre.
4,1 millions shippés.
Voilà, shippés. Donc, c'est-à-dire pas vendu.
Mais par exemple, tu fais.
Microsoft, c'est du 2,5.
Tu fais un jeu intéressant, grand public, mais intéressant avec quelques gimmicks avec le Move. Si tu touches, allez, 50% de l'audience de parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent en Move.
Oui, du coup, t'as le champ libre, quoi.
Ça fait 2 millions. Si tu touches 50% de l'audience, c'est déjà 2 millions. Donc, il y a.
Surtout que c'est pas forcément des jeux qui coûtent extrêmement cher.
Il y a des opportunités. Maintenant, je trouve que t'as tout à fait raison du fait que comme c'est pas fourni avec la machine, comme c'est un truc en plus, c'est un peu comme Wii Fit, ou la plateforme. Il y a des jeux de lapin crétin qui utilisent par exemple la plateforme. Ouais. Bon, voilà, combien en ont aujourd'hui, quoi.
Après, moi je suis le premier étonné, mais effectivement, le PlayStation Move est des trois manières de jouer, la plus précise, même plus précise que le Wii Motion Plus. En revanche, si on doit comparer les jeux à date, mi-décembre, du PlayStation Move et de Kinect, je me suis plus amusé sur Kinect avec les jeux PlayStation Move. Il n'y a pas de jeu sur PlayStation Move. Sorti de Sport Champions, il y a quoi?
Il y a Ruse que je retiens.
The Shooter qui est sympa aussi, qui n'est pas si facile que ça. Ouais, mais The Shoot, pardon.
Et il y a Heavy Rain,
qui est pas si facile que ça.
Bah, qui est franchement mieux à la manette qu'au PlayStation Move.
Echo Chrome 2 en téléchargeable là, qui sort, je crois, peut-être en décembre. Echo Chrome 2.
Ah oui, alors celui-là, oui.
Donc là, pour le coup, c'est un jeu qui pourrait me faire acheter une manette.
Mais PlayStation Move. Mais même si j'aime beaucoup Echo Chrome et que ce Echo Chrome II, elle est vraiment très sympa, où on change la perspective et la lumière, mais ça fait acheter un truc qui coûte 150 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il faut acheter
le move est un peu moins cher.
C'est
plus en tu prends en kit, quoi.
Parce que la manette seule, le PS Move, ça coûte combien?
Non, c'est une cinquantaine d'euros.
C'est 50 euros, je crois, c'est combien
de
manette
avec la caméra, il me semble.
Le PlayStation.
Et après, tu rajoutes encore 30 ou 40 euros pour celle-là.
Mais enfin bon, le grand problème, c'est les jeux. Vraiment, on espère qu'en 2011, on aura des belles annonces là-dessus. Alors, on sait que sur PlayStation Move, il y aura Killzone 3, par exemple. Enfin, il en faudrait d'autres. Et du côté de Kinect, c'est vrai que même s'il y a eu des annonces au Tokyo Game Show, on attend de les voir, vraiment.
Forza 4, je vois pas l'intérêt avec.
Non, mais il y a quand même aussi des putains d'arnaques avec ces jeux-là. Il faut en parler. Je sais pas si vous avez vu sur YouTube cette vidéo hallucinante.
Sur Joyride.
Oui,
voilà, sur Joyride, où en fait, le mec ne bouge pas et
il gagne la course.
Il gagne la course parce que ça tourne.
Mais Joyride, c'est vraiment l'exemple numéro 1 du jeu qui ne fonctionne pas.
C'est de loin le moins bon du lancement. Hein.
Ouais.
Mais Kinect Imals est sympa et Kinect Sports est pas mal.
On va
quand
parler,
vous
on
avez
va
de
parler
la
de Dance Central aussi qui est
pas mal. Oui, qui est pas mal aussi. Ouais.
Là, pour moi, sur moi, je suis fan, vous l'avez peut-être compris, de jeux de plateforme. Un jeu de plateforme avec Kinect.
Mais
c'est mort.
Ça peut pas fonctionner.
Non, alors moi,
si tu sautes,
j'avais vu un proto.
Tu peux faire comme ça?
Mais voilà,
non, tu peux pas.
J'avais vu un proto de jeu de plateforme hyper intéressant, mais qui a été annulé. Mais c'était fait par qui? Je crois que c'était fait par Arkedo.
Ah, le truc avec les
doigts. Avec les doigts.
Ouais.
Ouais, mais tu peux faire des trucs rigolos avec ça. Enfin, tu peux orienter.
Je pense que la scène indé va vraiment peut-être s'approprier justement ces nouveaux périphériques pour nous sortir des concepts intéressants qui seront ensuite repris par les gros, les gros éditeurs.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec Kinect, hein, où on sait que Kinect en elle-même n'est pas open source, hein, mais enfin les drivers, etc., sont en train d'être bien détournés sur la scène du PC avec des jeux. Bon, certains, olé olé, on va dire, d'autres, des applications un peu plus scientifiques, mais c'est vrai que là, il y a un vivier de créateurs qui vont peut-être trouver des manières de faire interagir les choses de manière intéressante.
Ce qu'on verra en 2011, mais en même temps, bon. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche trop à étendre, à trouver des nouvelles manières de jouer, alors qu'on est très très loin d'avoir exploité toutes celles qui existaient déjà avant. Donc,
et puis, il peut y avoir des combos entre manette et Kinect, par exemple, sur Kinect ou d'autres choses. Enfin, bon.
Parce que fait Nintendo hein, avec sa Wiimote. Hein. Au final, y a assez peu de jeux qui nécessitent d'être sans arrêt comme ça devant son écran. Ouais. De temps en temps, tu la secoues. Puis voilà,
Donkey Kong est un bon exemple là-dessus.
Exactement.
Mais en même temps, de toute façon, on sait très bien que les hardcore gamers ne vont pas forcément succomber à ce truc-là. Mais c'est beaucoup de marketing aussi. Quoi. Ils doivent prolonger la durée de vie de la console. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent ce genre de trucs-là pour. Occuper le terrain, comme disait Julien, et puis voilà, donc ça continue.
Casser
comme
leur
ça
image aussi. C'est vrai que la Xbox a une image très très très, très gamer. Genre, on imagine, on parle Xbox, on imagine le gamin américain en train de jouer un FPS à Halo devant sa console.
Exactement.
Donc
c'est
là, avec Kinect,
maintenant
on a une bombasse qui va danser avec Dance Central.
Voilà, t'as Kinect Imals avec les petits.
Qui véhicule ces images avec la publicité, le marketing, qui permet justement d'ouvrir un peu le public.
Et c'est très important. Bon, messieurs, pour conclure ce podcast. Il y a beaucoup de jeux dont on n'a pas parlé forcément, hein, mais alors si vous aviez quelques titres à retenir 2010 qui ont marqué pour vous 2010 ou quelques événements.
Moi j'avais fait
Régal.
Sur Sens Critique.
Mais quel est ce site, Régal?
J'avais fait mon top.
Pas dans ton micro, on n'entend pas bien quand tu dis Sens Critique.
Sens Critique, voilà. toutaccroché.com. J'avais fait une liste des top 2010 et je pensais en mettre 10 dedans et j'en suis à.
Attends, 48,
j'en suis à 19. Ce qui est assez marrant, c'est que cette année. Et en plus, il y en a plein que j'ai pas mis. C'est-à-dire que cette année, il y a vraiment eu un choix à faire. Et pas un choix il y a vraiment beaucoup de choix. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, mon coup de cœur, c'était Limbo. Donc je l'ai mis en 1, même si voilà. En 2, j'en ai mis un qui a un peu passé inaperçu. C'est Stalker Call of Pripyat.
Ah oui,
tu vas faire plaisir à beaucoup de game bloggers.
Oui.
C'est un FPS PC qui est sorti au début d'année et qui n'a pas eu beaucoup de chance en termes de distribution, de visibilité. Mais en tout cas, achetez-le sur Steam.
Qu'il est débugué maintenant.
Voilà, il est débugué, il coûte plus grand chose. Mais les bugs, c'était pas ce qu'il y avait de pire dedans.
Mais non, mais c'est pareil dans Fallout New Vegas, c'est blindé de bugs.
Fallout 2, voilà, c'est pareil.
Red Dead, il y a des bugs. Hein,
les meilleurs jeux sont comme ça. Donc c'est un FPS un FPS intéressant avec des composantes RPG. Enfin bref, voilà, je vais aller vite pour le reste. Red Dead en 3, moi j'ai mis Mass Effect en 4, Starcraft 2 en 5.
Oui.
Quand même. Fallout 6, Fallout New Vegas, 7 Super Meat Boy, 8 Warhammer 40000 Dawn of War 2, la donne pour montrer qu'il n'y a pas que Starcraft 2 dans la vie.
Ouais, c'est vrai. je vais le mettre dans mon top juste pour montrer que
voilà. Civilization 5, on en a pas parlé
mais si on en a parlé dans notre récap de fin d'année, mais
ici Alpha Protocol, très bonne surprise.
Ah, c'est marrant hein, tu vois, moi aussi
très bonne surprise mes petits jeux. Alors Mario Galaxy 2, je l'ai mis en 11. Voilà, il y est.
Tu lui as mis une note de 8,7.
Non, ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne
des sens critiquiens.
Voilà,
sens critiqueurs.
Des gens bien. C'est la moyenne. Des gens bien. Mes éclaireurs, donc moi, les personnes que j'ai choisies ont mis moins, 8,4. Tu vois,
parce que lui, il a des éclaireurs qui taillent.
Voilà, Amnesia, que j'ai retenu. Amnesia, on en a parlé.
Ouais.
Et j'ai vu sur le reste Lara Croft, Alan Wake aussi, quand même, que j'ai noté. Alors, Winterbottom, je l'avais mis. Castlevania.
Ah oui, chouette.
Bah, Castlevania aussi. Très chouette. Darksiders, God of War 3. Et enfin, un peu moins bon, mais petit coup de cœur pour Metro 2033.
Ouais.
Un FPS.
Imparfait, mais qui a une belle ambiance.
Mais qui est sympa, quoi.
Bah, ouais, qui est bizarrement fait par des sécessionnaires de GSC Game World qui ont développé Stalker.
Qui ont fait Pripyat, ouais. Donc voilà, en FPS, il n'y a pas que Call of Duty. Voilà, cette année, il y a quand même.
C'est ça. Et t'as pas joué à Bad Company 2, toi?
Ben non.
En multi.
Non, j'ai encore pas mal. J'ai même pas encore joué à Assassin's Creed Brotherhood aussi. Ouais, pourquoi j'ai. Voilà, donc il y a encore. Ce qui est marrant, c'est cette année.
Faut que tu te dépêches, là, parce que 2011. Ça va partir en janvier. Hein.
Mais quel que soit. Voilà. Mais ça, c'est que quel que soit le genre que t'aimais cette année, c'est ça qui est fort. C'est qu'avant, si t'aimais les STR, en année, il n'y en avait pas. Ou les RPG, il n'y en avait pas. Là, c'est cette année que quel que soit le genre que t'aimais, t'avais un jeu.
Et quel
au moins
que soit le style de joueur que tu sois. T'avais des un jeux peu occasionnel ou hardcore.
Voilà.
Thierry, ta sélection.
Moi, c'est bon, on va retomber un petit peu sur les mêmes jeux. Donc, Super Mario Galaxy 2, c'était vraiment le choc. Moi, étant fan de jeux de plateforme, il y a Beat Trip Runner qui sort vraiment du lot. J'ai été extrêmement séduit par Donkey Kong Country Returns.
Celui-là, je n'ai pas du tout.
C'est sur WiiWare, c'est ça.
Beat Trip Runner, c'est sur WiiWare. Donc, c'est un jeu Gaijin Game. C'est toute une série. C'est une série de jeux avec le commandeur vidéo. Et donc, ça reprend un petit peu des gameplays classiques. Le premier Beat Trip, c'était Beat Trip Beat. C'était une sorte de Pong. Ensuite, il y a une espèce de Pac-Man. Ensuite, il y a une. Enfin, bref, ça évolue comme ça. Et le Runner, c'est de la plateforme pure. Et donc, c'est rythmique également puisque tu as des musiques chiptune derrière qui accompagnent le gameplay, chaque action en fait du personnage est rythmée. Il y a un peu de ça carrément.
C'est celui où on est sur un fil, on avance, on recule, c'est ça?
Ah non, celui-là c'est le tout dernier, c'est Beat Trip Fate qui est plus un shoot et qui est très sympa mais moins accessible que le Runner. Et sinon, Limbo qui est fantastique, Super Meat Boy évidemment, Dragon Quest 9, on va le redire.
Réécoutez le podcast de la semaine dernière, à peu près au milieu du podcast, et vous découvrirez l'amour, non pas caché, mais absolu, de Thierry pour ce jeu.
Un vrai
Platinum Games, Bayonetta et Vanquish, alors deux jeux genre vraiment super sympas en annonce.
Infinite
impressionnant.
Space, c'était très bien aussi.
Infinite Space, ouais, celui-là je ne l'ai pas encore fait,
donc,
mais
c'est encore
vraiment très bien.
Games, donc.
Ouais. Et puis Alan Wake, en effet, on n'en a pas beaucoup parlé et c'était séduisant malgré un gameplay un peu simple et répétitif.
C'est vrai qu'Alan Wake, moi, c'était la grosse attente de l'an dernier et un peu déçu.
Oui,
voilà,
quand même.
C'est une petite déception, mais bon, intéressant. Je trouve intéressant.
Numéro 1 du time, hein, quand même. Curieux quand même. Mais bon. Moi, je suis fan de jeux de caisse aussi. J'étais un peu déçu par cette année. Blur, Split Second, ça m'a pas séduit. GT 5, c'est sympa, mais c'est vraiment pour amateurs de simu et c'est trop lent au niveau des chargements. Et fin 2010, c'est cool. D'accord. Et donc NFS Hot Pursuit est sympa. Donc ça, mais j'aurais aimé un Burnout ou un Dirt. J'ai pas eu mon jeu de caisse
cette
année.
Dirt 3,
c'est
pour l'année prochaine.
Dirt 3, c'est pour l'année prochaine. Je l'attends.
Il y en a quand même qui sont pas mauvais dans ce que t'as dit, quoi.
Non, mais il y a pas le gros coup de cœur, quoi. Le truc où je suis, tu vois, pendant les vacances, j'y joue.
Le titre invraisemblable, quoi.
Et pendant les vacances, en effet, je joue à Castlevania, NBA 2K11, donc des titres à côté desquels j'étais
aussi,
passé, quoi.
NBA aussi,
voilà.
Ouais.
Très très bon. Allez, on se rappellera aussi que l'année 2010 en France, ça a été l'occasion pour énormément d'actions qui prônent la culture du jeu vidéo. Alors il y a eu toutes les éditions Pix & Love bien sûr qui ont fait pendant toute l'année des productions incroyables avec des bios chambés sur du Gunpei Yokoi, sur Michel Ancel
conseille celui sur Gunpei Yokoi qui est juste fabuleux, c'est très très intéressant,
vraiment vraiment très bon,
un grand monsieur.
Il y a aussi Console Syndrome édition qui a lancé une saga des grandes séries avec
premier
Assassin's
volume.
Creed
oui, premier volume de leur collection, les sagas du jeu vidéo avec Assassin's Creed, à ne surtout pas lire ou alors pas en entier tant que vous n'avez pas joué au jeu, si vous avez l'intention de le faire, parce qu'évidemment c'est bourré de spoilers.
C'est un peu pourri, je crois.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
mais c'est vrai que 2010 ça a été vraiment une année importante aussi là-dessus, hein, sur de plus en plus d'écrits autour du jeu vidéo et surtout des écrits de qualité. Il y a eu aussi l'apparition du Museo Games au Musée des Arts et Métiers
qui est prolongé jusqu'au printemps.
Qui est super intéressant. Ouais. Moi c'est une vraie expérience. C'est aux Arts et Métiers, donc ça. C'est bien, tout le monde en a parlé. Enfin, si vous n'avez pas vu Museo Games, c'est vraiment à voir. J'ai trouvé ça. Et voilà.
C'est MO5 derrière. Donc
Et ça a tellement bien marché que c'est prolongé jusqu'au mois de mai. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous y rendre. Et puis vous pouvez jouer à ces jeux.
Et je crois d'ailleurs que c'est juste pour finir dessus, je crois que c'est une initiative qui va devenir européenne. En tout cas, qui va en tout cas au début même partir en région normalement, d'après mes infos, en 2011. Donc ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ne sont pas à Paris.
Tout à fait. Et puis il y avait le musée du jeu vidéo qui se tenait. malheureusement pendant seulement 5 jours sur le toit, enfin dans la zone des toits du
de l'Arche
de la Défense. Oui. Malheureusement, vous êtes probablement au courant si vous êtes des fidèles de Gameblog.fr, ou sinon vous pouvez taper dans le moteur de recherche musée du jeu vidéo, vous comprendrez que le ministère de l'écologie et du développement durable a décidé finalement
de ne pas faire
de détruire ce musée, malheureusement avec les conséquences que l'on connaît. Et une fois de plus, on tient notre chapeau aux organisateurs de ce musée qui s'était bien déchiré hein, pour faire quelque chose de vraiment de qualité. Alors c'était pas parfait, il y avait des petites choses que nous on avait soulignées.
Plus une expo qu'un musée,
voilà,
ça, c'est le souci.
Là-dessus. Exactement, ouais. Plus une expo qu'un musée, mais néanmoins, c'était une belle approche du jeu vidéo aussi.
C'était une première initiative, surtout française. D'autres pays ont déjà leur musée du jeu vidéo, nous plus en tous les cas. Donc, voilà.
Donc l'avoir fauché comme ça en 5 jours, autant de travail, ça nous fait quand même un petit peu mal au cœur. Et on a une petite pensée pour Jean-Philippe Alba, plus précisément. Ça a été aussi une année particulière hein, au niveau du... plein de mouvements, hein, Patrice Desilets de la saga des Assassin's Creed de Ubisoft qui part chez THQ, Robbie Back et Jay Allard, des
figures historiques de la marque Xbox, de lancement de Microsoft sur le hardware en console.
Qui quitte Microsoft.
Voilà, ouais, sauf Allard reste en consultant un petit peu sur différents trucs, mais il s'était déjà éloigné, il faisait le Zune, donc je pense que voilà, il est passé à autre chose.
Camille Tête-à-Claque, Dunaway au marketing de Nintendo of America, qui se casse et ça fait plaisir, on ne la regrettera pas. Keiji Inafune, le père des Megaman, des Onimusha, alors on sait que ça vous énerve quand on dit ça, mais enfin c'est pour bien résumer, pour bien faire comprendre, il était producteur de ces séries, on sait, mais qui en tout cas claque la porte de Capcom après tant d'années de...
Après avoir dit que son job était un cauchemar, quoi.
Oui, c'est ça, un petit peu, voilà. Donc, et que le jeu vidéo japonais était mort, enfin bon.
Il vient de refaire un studio, il parle encore, il est là lui.
Qui s'appelle Concept, a priori, et Shinji Mikami, hein, le père des Resident Evil, qui rejoint Zenimax
Media, c'est-à-dire la maison mère de Bethesda, id Software, et puis Arkane Studios en France aussi.
Exactement. Donc une année 2010, vous l'avez vu et entendu, particulièrement riche, bouillonnante, plein de belles perspectives, d'ailleurs des perspectives, eh bien, que nous... passeront au crible début de l'année 2011 avec le grand retour des podcasts, puisque la semaine prochaine vous aurez un podcast exceptionnel, un podcast dédié aux musiques de jeux vidéo avec le blind test traditionnel, et on se retrouvera au début de l'année 2011, tout début de l'année 2011, pour parler véritablement eh bien de tout ce qui nous attend, puisque le rythme du jeu vidéo ne fait que s'accélérer.
Ah là là.
Mais en tout cas, juste avant de vous quitter et de vous fêter bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, bon Noël, eh bien on tenait véritablement à vous remercier, car grâce à vous, hein, le podcast de Gameblog.fr maintenant est entré dans la sélection iTunes, donc crédité Apple, dans le top des meilleurs podcasts de 2010, et nous sommes en 16e position et nous devançons les grosses têtes et d'autres émissions majeures de la radio française comme l'After Foot de RMC. En gros, voilà, on est dans le classement des meilleurs podcasts au même titre que toutes les émissions de France. Donc on vous tire un joli chapeau.
C'est le choix des invités aussi.
Mais je crois d'ailleurs que ce podcast sera le premier français, bien devant les vœux du président. Voilà, allez, on se quitte, on se donne rendez-vous en 2011, toujours avec la même pêche, la même énergie, la même passion du jeu vidéo. À très bientôt, jouez bien, ne mangez pas trop, mais éclatez-vous bien. Ciao !
Ciao !
Ciao, bonne fête.